à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission du SAV de la F1 consacrée au Grand Prix de Corée à Yeongam. Si Singapour est le Monaco d'Asie, en moins bien, on peut dire que Yeongam, d'une certaine façon, c'est le Silverstone d'Asie. Alors, pas parce qu'ils ont fait des travaux dans l'intersaison, non. Pas non plus pour la vitesse moyenne, qui est d'ailleurs plus rapide à Silverstone qu'à Yeongam. Non, c'est le Silverstone d'Asie, car ce week-end, Red Bull a gagné son deuxième titre de champion du monde constructeur devant des champs de patates douces, des figues, 3 moutons, 2 cochons et 4 vaches. Un endroit complètement paumé que ne renierait pas Jean-Pierre Pernaut. Pour m'accompagner, et cette semaine, je peux vous le promettre, je m'avance mais je peux vous le promettre, on va dire des choses gentilles sur Lewis Hamilton.
Oh, tu t'avances, Shinji.
Bonjour, Dino.
Bonjour, Shinji.
Et, Dino, qui avons-nous cette semaine?
Ouf, j'en ai marre de présenter les invités, Shinji. Fais-le pour une fois, que je finisse mon tour.
Oh.
Je suis en train d'apprendre le Grand Prix d'Inde, excuse-moi.
Ça lâche déjà, dès le début de l'émission, on ne veut pas faire son boulot. Mais cette semaine, nous accueillons un habitué, un super fan de longue date, un ami de longue date. Bonjour.
Merci.
C'est un vieux.
Merci. Bonjour, ça me touche beaucoup.
Alors comme d'habitude, qu'avez-vous pensé de cette course? Vous avez aussi le droit de donner votre avis sur le circuit après ce que j'ai dit. Hein.
Ah, d'accord. Alors différencions les choses. Parlons d'abord de la course ou du circuit?
Parlons de la course quand même.
J'étais vraiment très déçu. Parce qu'au final, ça peut être une course pas mal, mais vu les promesses, tout le monde parlait de 5 arrêts. Bon, c'était un peu exagéré, mais déjà 3-4 arrêts, c'était possible. Et finalement, déjà, ça a fini marron, quoi. Il y avait peut-être le petit suspense de la pluie. Et finalement, il s'est passé grand-chose durant ce Grand Prix. Ouais, je pense. Donc, j'étais un peu déçu.
Je dirais que c'est dans le moyen. C'était pas non plus. Il y avait des choses intéressantes, mais c'est vrai que c'était pas non plus grandiose, on va dire. C'est entre deux eaux, c'est dans le moyen.
Il y a eu de la bagarre.
Oui,
quoi.
Oui.
Il y a pas eu de suspense pour la victoire. Voilà. Je crois que c'est Froissart qui a dit ça dans Dimanche F1. Il a dit voilà, c'est une course à l'image de la saison. C'est Vettel devant, même loin devant, puis les autres qui se battent pour la deuxième place. Voilà. C'était une course propre.
Ouais.
Mais voilà, moi j'ai pas trouvé que c'était un Grand Prix inintéressant.
Juste comme ça sur le circuit. C'est vrai que c'est la deuxième fois entre guillemets cette année on le voit fini.
Non. Oui, ils ont repoussé. Voilà, alors c'est que maintenant on sait que les Coréens sont vraiment très rapides pour faire les travaux puisqu'ils ont mis 12 mois pour repousser le mur du dernier virage de 1 mètre.
Donc ça veut dire qu'il en faudra au moins 2 ans pour changer la sortie des stands.
Par contre, ils sont un peu moins rapides pour vider les frigos. Il y a beaucoup de sites qui ont protesté parce que quand ils ont été reçus, certains frigos d'hôtels, de chambres d'hôtels n'ont pas été vidés, que c'était du grand n'importe quoi.
Ah, c'est un scandale, je veux dire. C'est un circuit qui est indigne de la Formule 1 dans son état actuel. Je parle même pas du tracé. Non, vraiment, c'est pour dire. Alors que le tracé, je suis pas particulièrement fan, mais c'est dans son état, c'est un circuit qui est indigne de la F1, quoi. Il y a rien autour.
Ah oui,
il y avait quasiment personne dans les tribunes vendredi, c'est incroyable. Enfin voilà, moi j'estime que ce Grand Prix n'a pas de raison d'être au calendrier.
Ah puis il y a ce fameux programme immobilier. Je m'attendais à ce que cette année, comme le circuit était terminé, ça allait démarrer, qu'on allait voir des grues partout. Que dalle, des beaux champs. Donc hier, nous étions le 16 octobre.
Ah oui, c'est vrai.
Le service après-vente de la F1 vous présente l'éphéméride de Shinji. Une rubrique si drôle qu'éphéméride. C'est pas drôle, en fait.
Nous allons donc nous intéresser au 16 octobre. Et je dois prévenir, on va parler de certaines choses pour cette journée du 16 octobre, mais j'en ai enlevé parce que si j'avais pu donner un thème au 16 octobre, c'est que c'est quand même une journée assez anxiogène. Il y a un certain nombre d'événements pas gays du tout, dont certains que j'ai préféré enlever. Et vous allez voir que même en enlevant, il y a quand même des choses assez anxiogènes. Puisque le 16 octobre 1793, premier événement, c'est Marie-Antoinette qui est guillotinée. Oh, c'est quand même pas un événement super heureux.
C'est gentil. Hein.
Oh, c'était un signe d'affection de la part du peuple. Il pouvait pas plus l'aimer. Hein.
On va passer au 13 octobre 1813.
Et c'est le 16 octobre.
Le 16 octobre 1813, c'est l'armée napoléonienne qui est battue à Leipzig dans la bataille nation. Ah. Et là, attention les gars, d'un côté, il y a l'Empire français, il y a le duché de Varsovie, il y a le royaume d'Italie, de Naples, de Saxe, et de l'autre, il y a le royaume de Prusse, il y a l'Autriche, il y a la Russie, il y a la Suède, et la Saxe, parce que, en fait, le royaume de Saxe, c'était du côté français du 16 au 17 octobre, et en fait, le lendemain, ils ont été de l'autre côté du 18 au 19 octobre. Non, ils ne changent pas d'avis. D'un côté, chez les Français, 195 000 hommes, 700 canons, et chez les autres, 330 000 hommes, 1500 canons. Un truc de malade.
Wow.
Alors, c'est une défaite française, mais ça peut aussi être considéré comme une demi-défaite, parce qu'en fait, Napoléon, il s'est replié. Qui peut aussi être une façon très polie de se dire qu'on se barre, mais aussi parce que, en fait, il y a eu moins de morts du côté des Français que du côté de Suède, Russie et tout ça, puisque le côté français n'a perdu que 60 000 hommes morts.
Ce qui est rare quand on connaît Napoléon.
Alors qu'en face, ils ont perdu 90 000. Mais malgré tout, on considère que c'est plutôt une défaite ou un match nul.
C'est souvent ça avec les Français. Quand ils perdent, bon, ils préfèrent relativiser.
Mais oui, mais c'est comme ça, nous, les Français. C'est soit on perd en relativisant ou on gagne comme des merdes. Mais on ne parle pas du 15 octobre, là, cette fois-ci. Le 16 octobre 1854, c'était la naissance d'un écrivain irlandais qui est célèbre pour ses citations. D'ailleurs, c'est même un peu le roi des citations.
Larousse?
Wilde?
Robert?
Oui, c'est Oscar Wilde, qui nous a quittés en 1900. Oh, il avait que 46 ans. Sinon, en 1902, grande innovation technique, puisque c'est la première utilisation de la comparaison des empreintes digitales par Alphonse Bertillon. C'est l'ancêtre de Grissom. Sinon, autre innovation majeure de la médecine, le 16 octobre 1914, c'est la première transfusion sanguine directe de la Première Guerre mondiale qui a été réalisée à l'hôpital de Biarritz. Et c'est vrai que la guerre a souvent été un moment où la médecine a fait beaucoup de progrès, parce que comme il fallait soigner malheureusement ceux qui revenaient du combat, notamment la médecine d'urgence. Sinon, alors, là, c'est moins anxiogène, sauf peut-être pour certains.
Je crains pire.
Que le 16 octobre 1923, c'était la société Walt Disney qui était créée.
Ah, c'est anxiogène, ça, Shinji. Sérieusement, on dit ça à tous les parents qui ont dû regarder la danse 70 fois, c'est anxiogène.
Dépend. Moi, je peux regarder 70 fois le Roi Lion.
Oui.
J'ai jamais vu.
Bienvenue au club.
Voilà, nous, on regarde des trucs un peu plus élevés.
Mais le Roi Lion, c'est Hamlet. Le Roi Lion, c'est une histoire de meurtre et de vengeance.
Moi qui croyais que c'était l'histoire de la vie.
Et oui.
Des petits animaux pixelisés orange.
Avec des allusions au fascisme. Faut le voir, le Roi Lion.
Oh, Chidi, tu vas trop loin, là.
Écoute, d'ailleurs, puisqu'on parle de ça, faut savoir que le 16 octobre 1940, c'était la création du ghetto de Varsovie. C'est gentil de me donner une transition.
Je savais bien qu'on allait arriver au point Godwin.
Ah oui, effectivement, c'est pas des trucs très cool.
On va passer au 16 octobre 1968. Et là encore, bon, c'est un scandale qui a eu lieu aux Jeux Olympiques de Mexico. C'est la fameuse finale masculine du 200 mètres qui a eu lieu ce soir-là. Et vous avez sans doute vu ces images. C'est celle du podium qui est restée dans la mémoire collective, où les deux athlètes américains, Tommy Smith et John Carlos, qui étaient arrivés premier et troisième, protestent contre la ségrégation raciale aux États-Unis, baissent la tête et pointent l'heure de l'hymne américain. Et on sait que les Américains, l'hymne, c'est quand même quelque chose, lèvent leur poing ganté de noir vers le ciel sur le podium. Le geste a été interprété comme la marque de leur soutien au mouvement politique noir américain des Black Panthers et du Black Power. Alors que quand on écoute les témoignages des coureurs, c'était pas spécialement une affiliation à un mouvement politique, mais plutôt de la protestation. Il faut quand même voir que les deux ont été exclus à vie des Jeux Olympiques et on leur a retiré les médailles pour ce geste. Sinon, en 1978, c'était l'élection de Jipitou, l'élection de Karol Wojtyla, Jean-Paul II, archevêque de Cracovie. Alors à noter que ce jour, c'est la journée mondiale de l'alimentation. Et au Chili, c'est la Dia del Docente ou Dia del Profesor, c'est-à-dire la journée du doyen ou journée du professeur.
Il n'y avait pas déjà eu un truc comme ça l'an dernier?
C'est possible.
Oui. C'était Colombie, je crois.
Ouais, il y a plein de pays qui font comme ça, des journées pour les profs.
Nous en France, ça s'appelle le 6 mai.
Pas le 6.
C'est le deuxième tour des élections présidentielles, c'est pour ça.
Ah, d'accord.
Et enfin, pour finir, enfin, en tout cas pour la partie hors et fin, même si on va se rapprocher de Porto, et c'est pour ça aussi que je vous ai donné des pincettes dès le début, c'est que il me paraissait utile de parler du 16 octobre 2011, Alors c'est d'autant plus fort que vous en doutez que nous, quand on enregistre ça lundi, et qu'on a appris la nouvelle ce matin, hein, parce que ça s'est passé pendant la nuit. Au moment où vous nous écoutez, sans doute vous en avez entendu parler, hein, c'est bien évidemment la disparition de Dan Weldon, hier, lors de ce qui devait être une fête pour l'IndyCar. Parce que c'était
Lors de la dernière
dernière
manche.
la dernière manche, son décès après un terrible accident, faut
Oui.
bien le dire.
C'est comme souvent
Ouais.
en IndyCar, un petit accrochage qui a de grosses conséquences.
Et voilà.
Il y a un
Il
tout
y a un
petit accrochage
empêchement, ouais.
au début et derrière, les voitures ralentissent et malheureusement, Dan Weldon, et je crois que c'est aussi Scott Dixon, arrive un peu trop vite, ont pas le temps de réagir, sont surpris sans doute par le ralentissement et tous les deux décollent sur une voiture qui est devant. Le saut le plus spectaculaire au début, c'est celui de Will Power. C'est Will Power
On voit des
qui a
voitures s'enflammer, hein.
malheureusement la voiture de Dan Weldon, elle aussi a fait un saut, elle s'est retournée, il a terminé sa course contre le mur de façon latérale. Selon certaines communications, le casque du pilote a explosé à l'impact, donc ce qui laisse supposer de la violence du choc. Et les premiers témoignages de la piste, hein, quand on regarde les images, les premiers témoignages, c'est quasiment les témoignages de zones de guerre. Et voilà, donc on a appris un peu plus tard dans la soirée, alors que la course a été mise sous drapeau rouge, que Dan Weldon était décédé. Et les pilotes, pour lui rendre hommage, sans doute l'une des plus belles images qui m'a été donnée de toute ma vie en sport, de manière générale. C'est l'image de ces pilotes qui ont fini la course par une série de 5 tours à un rythme de sénateur.
Enfin, ils ne sont repartis que pour 5 tours, faut le dire. La course n'a même pas eu lieu, finalement.
Voilà, ils sont. De toute façon, il n'y avait plus d'intérêt puisque
Oui.
dans la lutte pour le titre, c'est au-delà même, c'est-à-dire que au-delà même du fait qu'il y a eu un accident grave et qui a impliqué 15 voitures et qui fait que le peloton était limité plus qu'à 20 voitures. Dans l'accident a été pris l'un des deux pilotes pouvait se battre pour le titre. Donc à partir de ce moment-là, l'enjeu du titre était fini et il y avait un accident grave dont, sincèrement, dont on se doute dès le départ que les conséquences sont très graves, dont on a rapidement vu à la tête des pilotes, je pense notamment à Tony Canaan qui était effondré. Dans le paddock comme rarement que c'était un accident qui avait été fatal à Dan Weldon. Donc pour revenir un peu sur la carrière de Dan Weldon, il y a un très bon article qui a été fait par c'est la chronique de Ben du jour qui a été faite sur FanF1. Dan Weldon, c'est ni plus ni moins que celui qui a remporté les 500 miles d'Indianapolis cette saison.
Ah oui, donc on peut dire donc il était anglais, il était parti aux États-Unis faire sa carrière, il a été champion même de l'IndyCar, l'année où il a gagné parfois les 500 miles, hein, qui sont quand même une très grande course. Alors c'est vrai que cette année, il n'avait pas de volant à la base, il avait réussi à monter un truc pour les 500 miles.
Avec Brian Herta, un de ses anciens coéquipiers,
Voilà,
je
où
crois.
ça avait été le jackpot, parce qu'il l'avait gagné une deuxième fois. Et là, en fait, il avait fait une autre course entre-temps. Et là, pour cette dernière, il participait à un défi
Oui.
à 5 millions de dollars, où en fait, il partait de la dernière place. Et en fait, l'objectif, c'était qu'il gagne la course. Et s'il gagnait la course, il empochait un pactole de 5 millions, qu'il se partageait, je crois, avec un fan ou quelque chose
Tout à fait.
dans le genre.
C'est un vestige en fait je sais pas si vous vous rappelez, en début de saison, il y a eu un l'IndyCar avait lancé
Oui.
une idée, enfin je crois Randy Bernard avait dit on va demander des pilotes de NASCAR, de Formule 1 et compagnie de venir à participer à la course de Las Vegas. Sauf que par défaut de comment s'appelle
Candidat.
de candidat, problème de calendrier avec la F1 qui avait le Grand Prix de Corée, avec la NASCAR qui avait une course à Charlotte comptant pour le Chase, donc on voyait mal un des top pilotes aller faire la course. Donc du coup il y a un mois et demi, ils ont décidé de changer leur fusil d'épaule pour pas non, totalement perdre la face et de transformer ce challenge avec Dan Weldon qui était d'ailleurs en charge. C'est le destin cruel de ce pilote qui est décédé lors de la dernière course du championnat, alors qu'il avait développé
Oui,
une nouvelle
il
voiture
avait été ouais,
qui
embauché
va
pour
rentrer
développer.
en course l'année prochaine, qui est une voiture censée être beaucoup plus sûre, et c'est lui qui a contribué à la développer ces derniers mois, et il devait d'ailleurs faire la saison complète dans une écurie. Alors j'ai vu plusieurs noms d'écuries qui circulaient, voilà, donc c'est
Ouais,
triste,
c'est...
sincèrement, moi ça m'a flingué ma journée.
Ouais.
C'est pour ça que moi ça m'énerve, je l'ai encore vu aujourd'hui, c'est une phrase qui m'énerve et que vraiment je trouve indécente. C'est sûr que c'est pilotes-là, ils vivent avec le risque de mourir, ils vivent avec cette épée de Damoclès au-dessus de la tête. Maintenant, on peut pas non plus dire qu'ils meurent de leur belle mort. Le destin d'un pilote, c'est pas de mourir en piste, c'est une conséquence tragique, mais c'est pas de mourir en piste.
Il m'a aussi agacé aujourd'hui, mais enfin c'est pas nouveau, hein. C'est beaucoup de médias qui, bien évidemment, il se serait rien passé, n'auraient jamais parlé de la course d'IndyCar d'hier.
Ce que j'ai trouvé bien, à contrario, c'est que sur tous les sites de F1 que j'ai pu voir, je suis tombé sur la nouvelle, la mort de Dan McDonald, alors que ce n'est pas un pilote de F1. Moi, je le connaissais pas avant aujourd'hui.
Globalement, donc, dans le monde
de sport automobile. Je suis satisfait d'apprendre que le monde de la F1 attache beaucoup d'importance à ce qui se passe.
Pour tout te dire et en parlant du côté rédacteur, j'ai moi personnellement été tenté de faire un article hier sur ce sujet-là sur Fan F1, mais je me suis retenu parce que j'estime que c'est pas un sujet qu'on traite régulièrement. Voilà, on n'est pas habitué à parler de l'IndyCar, et que même si un pilote était mort en IndyCar, ça me semblait déplacé sur un site de Formule 1 de faire une news annonçant la mort d'un pilote que la moitié des fans peut-être ne connaissent pas. J'ai même posé la question au sein de la rédaction en disant j'ai pensé faire un article, mais je trouvais que ça un peu déplacé. Et finalement, ce qui est bien, c'est qu'on a eu des réactions de pilotes de Formule 1 qui ont fait le lien avec ça, et ce qui a donné la possibilité à Benoît de faire sa chronique, qui je trouve est très bien et rend à la fois hommage au pilote sans forcément faire dans le sensationnel. Voilà.
Donc nous pensons vont forcément vers ses proches et vont en avoir besoin. On va passer à ce qui est passé en F1.
Oui.
Et bien, je ne suis pas remonté très très loin. Je suis remonté au Grand Prix de Chine 2005. Oui, ouais. Qui à l'époque était en fin de saison.
Bah, c'était une semaine après ton Grand Prix où tu étais super content là, de l'annoncer.
Voilà. Alors, on peut faire un parallèle entre 2005 et 2011, puisque alors même si Alonso c'était le premier et Vettel c'était le deuxième titre, de la même façon, une semaine après avoir été titré, les deux pilotes offraient à leurs équipes le titre constructeur.
C'est faux. Alonso était titré au Brésil 3 semaines avant. Oh, je casse son
non, truc. Ça c'est en 2006.
Non, c'est en 2005.
Non, je suis pas sûr.
Ah si, moi je suis sûr.
Ah si, il a raison.
D'accord, j'arrête.
Oh, comment je casse le... Ah, désolé.
Ouais, je m'en fous, Alonso, je l'aimais pas à l'époque.
C'est vrai, tu ne l'aimais pas à l'époque.
Bah alors, Shinji, enfin, documenté, là.
C'est n'importe quoi, t'es...
C'est éphémérique, là.
J'ai dit, tu baisses de rythme en fin de saison, méfie-toi.
C'était peut-être pas une semaine près, mais en tout cas, donc, après avoir gagné le titre, ils ont offert... Bon, c'était pas une semaine après, c'était 3 semaines.
Mais oui, mais il y avait une course entre-temps. Il y avait une course entre-temps, le Japon.
Mais il y avait une course entre-temps. Et ça m'a amené une réflexion. Je me suis dit que finalement, Alonso et Vettel avaient aussi comme point commun, pour l'instant, qu'on ne sait pas encore... l'avenir que va nous réserver Red Bull, mais ils sont entre guillemets les hommes de leur équipe, puisque Renault n'a été titré qu'avec Alonso, et pour l'instant Red Bull n'a été titré qu'avec Vettel. Et donc je me suis intéressé, souvent on regarde les statistiques sur combien de titres ont eu telle ou telle équipe, combien de titres ont eu tel ou tel pilote. Je suis intéressé au nombre de pilotes qui ont gagné des titres pour une équipe.
Pour une seule équipe.
Voilà. D'accord. Combien de pilotes ont gagné un ou plusieurs titres pour une équipe? Alors bien évidemment, les équipes qui ont gagné qu'un seul titre ne l'ont gagné qu'avec une seule personne, forcément.
Les simples champions du monde ne l'ont plus gagné qu'avec une seule équipe.
Une seule équipe. Donc
il y a eu 32 champions du monde. Alors, il y en a, je crois.
Titres pilotes, hein, je précise bien, pas des titres, mais des titres pilotes. Donc bien évidemment, BRM a eu un seul titre, c'était avec Graham Hill. Hein. Matra, c'est pareil, ils ont eu qu'un seul titre, c'était forcément avec Jackie Ward, de même que Brown, c'était forcément avec Denson Button. Et alors là où il y a une statistique qui est quand même assez originale, c'est que quasiment toutes les équipes qui ont gagné deux titres pilotes l'ont quasiment toutes eu, en fait, avec un seul pilote.
Ouais, parce que deux, c'est rarement espacé de d'un nombre d'années important, donc...
Tout à fait, ouais. C'est souvent assez proche, hein. Donc, par exemple, justement, on l'a dit, hein, Alonso, deux titres Renault, Vettel, les deux titres pour Red Bull, il y a aussi Benetton, il y a aussi eu Tyrrell. Alors là encore, hein, comme tu disais, hein, c'est deux titres assez peu espacés, hein, 71 et 73, et les deux titres, ils sont de Stewart, tout à fait. Cooper, pareil. Deux titres, mais un seul pilote.
Burr.
C'est encore l'histoire de la F1.
50-60.
Brabham?
McLaren.
Non, Brabham.
Ah.
McLaren
à 59-62.
McLaren n'a jamais eu de titre de pilote. Alors après, il y en a un paquet avec Fangio, mais en même temps, lui, il a eu un paquet de titres, donc ça, c'est un peu normal. Mais
ouais, il triche.
Il a eu deux titres avec Maserati en 54 et 57.
Deux avec Mercedes.
Deux avec Mercedes, donc 55, je pense qu'il serait rapproché.
54.
Oui. Et en fait, la seule exception, c'est Alfa Romeo. Même si les titres sont rapprochés, puisque c'est 50 et 51, ils l'ont eu avec deux pilotes, qui sont Farina et Fangio.
Les deux premiers, quoi.
Voilà, les deux premiers. Et, mais c'est le seul, tu vois, pour une équipe qui a eu deux titres, là, à l'avoir eu avec deux titres différents. Alors, après, il reste celles qui ont eu plus de titres, et là, ça devient très intéressant, parce que quand tu regardes la statistique, tu vois des choses, entre guillemets. Par exemple, Lotus a gagné six titres pilotes. Et d'après vous, avec combien de pilotes différents, justement?
Deux. Ah non, trois.
Un peu plus.
Andretti, Graham Hill et...
Clark.
Oui, et tu oublies aussi Jochen Rindt.
Ah oui, merde.
Mais ouais, ça fait... Il compte pas, lui.
Bah si.
Mais attends. Je plaisante. Attends, Clark, il a gagné trois titres avec Lotus.
Non, il n'a gagné que deux titres, Clark.
Deux titres. Donc c'est deux titres Clark, deux titres Hill, un titre Rindt et un titre Andretti.
Alors, Hill n'a gagné qu'un titre pour Lotus.
Ah bon?
Ah non, parce que le deuxième, c'est BRM.
Oh, je suis paumé, là, dans mon histoire.
Oh là là. Qu'est-ce que c'est, ces trucs?
Mais non, mais sinon, tu avais bon au niveau des pilotes. Il y a cinq pilotes, mais Hill n'a pas eu...
Ah non, c'est qui le cinquième? T'en as dit que quatre?
Non,
Clark, Hill, Rindt, Fittipaldi et Andretti.
Ah, Fittipaldi, mais j'ai pas entendu Fittipaldi,
moi. Mais tu l'as dit, Fittipaldi.
Non, j'ai pas dit Fittipaldi.
On va réécouter, ça va être beau, là.
Ah non, mais j'ai dit Clark.
Non, c'est moi qui dis Clark.
Oui, non, mais j'ai dit Hill et j'ai dit Andretti et j'ai dit après, je retrouvais pas le nom de Clark. Mais maintenant que tu me dis Fittipaldi, ouais, Fittipaldi en effet. Je le rajoute.
Ah, après, il y a Williams. Williams, 7 titres pilote. Mais avec combien de pilotes?
Mansell, Prost, Hill, Villeneuve, Piquet. 6 ou 7? Peut-être 7. Bah 7 avec Alan Jones, ça fait 7.
Oui, 7 titres pilotes avec 7 pilotes.
Oui, mais ça, c'est une grande tradition chez Williams. Aussi,
voilà, c'est là où c'est très drôle quand tu vois le truc. Tu te dis, ouais, c'est normal, c'est Williams.
Quand t'es champion, il est jamais bon d'être champion chez eux.
Hein,
ouais, ah bah, il n'y a pas très longtemps.
Donc, rappelons que Prost a fini sa carrière après son titre. Il est parti après son titre. Villeneuve est parti un an après son titre.
Oui.
Ou pas. Mansell n'a pas pris sa première retraite après son titre. Ou il a... Bah non, il a 80...
Oui, il a même pris clairement sa retraite après.
Bah après, tu sais, il a fait des piges pour...
Ouais, ouais, c'est pas un vrai retour.
Voilà. Après, Piquet, je sais pas si Piquet est parti de Williams juste après son titre. Ah mais si, en 88, il part chez Lotus.
Ah ouais, d'accord.
Donc déjà, qui d'autre? Rosberg, non, je crois que plus Rosberg, par contre, il était encore là après 82.
Oui, il est resté, oui, non, oui, il est resté, puisque 83, je me rappelle une course où il est en Williams.
Et Jones aussi, il reste l'année d'après chez Williams. On va passer à McLaren. McLaren, 12 titres pilotes quand même, mais avec combien de pilotes? Et là, c'est vrai qu'il y en a beaucoup qu'on trouve plusieurs fois.
Hamilton.
Je dirais 5. Martinet, 6. 6.
Prost, Senna.
Alors.
Sans les compter.
Il y a Fittipaldi en 74. Il y a Hunt en 76. Il y a Loda en 84.
Après, il y a Prost et Senna.
Prost et Senna, en fait, qui ont fait, on se dirait pas comme ça, mais à eux deux, ils ont la moitié des titres pilotes de chez McLaren. Prost 85, 86 et 89, Senna 88, 90, 91. Et donc bon, après, bah, Hakkinen 90, 99 et Hamilton 2008, ça fait 7.
Ah oui, Hamilton.
Oui, mais Hamilton, il a dit lui-même que c'était un petit championnat.
Bon, alors, 6,5.
Voilà.
Mais parce que c'est lui qui le dit, hein.
Voilà.
Et donc, reste à Seigneur Tonnerre, Ferrari.
Red Bull. Ah non, Ferrari.
Alors la Ferrari.
Ah bah si, j'ai une affiche devant moi, 9.
15 titres pilotes, du peu. Mais c'est avec bon. Combien de pilotes?
Bah 9. J'ai l'affiche devant moi de tous les pilotes champions avec Ferrari.
Ah, tu nous les donnes.
Ah non, c'est pas drôle, il y a la réponse, attends, je suis donné.
Alors, non, mais même, de toute façon, je le savais quand même. Mais je...
Raikkonen, Schumacher, Scheckter, il y a eu qui avant? Il y a eu Loda deux fois, il y a eu Surtees, il y a eu... Hawthorn.
Ouais. Et pas Hachum, malgré le son que vous avez.
Ouais. Non, Hachum, il rentrait pas dans le bac. Et il doit m'en manquer un ou deux.
Il manque trois.
Il manque trois.
Il te manque 61 et normalement, je sais pas, je crois que c'est lui, il va y avoir un film sur lui.
Ah, Phil Hill.
Phil Hill, ouais.
Oh, si,
il lui en manque deux. C'est les titres pilotes, hein, parce qu'il y en a avant. Deux noms super connus, hein.
Ouais, franchement, là...
Il y en a un, on a déjà parlé de lui, hein, on a parlé déjà de quatre de ses titres.
Ouais. Donc déjà, je... en même temps, là, tu réduisais.
Attends, Fangio, il a été deux fois champion avec Mercedes, deux fois champion avec,
il a cinq titres,
avec Maserati, une fois champion avec Alfa Romeo. Il a eu où son titre Ferrari?
Une seule fois avec Maserati.
Bah, je te dis, c'est quoi cette chronique de merde là où tu nous dis qu'il a été deux fois champion avec Maserati?
Mais non, c'est quand il y a une année où c'est Maserati avec un moteur Mercedes.
Ah, ils sont les deux. Voilà.
C'est une Maserati.
Ah, voilà, bon, fallait le préciser à ce moment-là, je te dis. Moi, j'étais parti.
J'ai donné les dates.
Oui, non, mais voilà, non, mais t'as donné les dates, fallait préciser le côté original du truc, merde.
Et il t'en reste un.
Ascari.
Oui, Alberto Ascari, 52 et 53. Mais c'est bien quand même, t'as un peu de mal sur les années 50, mais c'est bien quand même.
Oh, c'était nul.
Allez, on va passer à l'actu.
Et au fait, ce que tu parles de l'éphéméride, aujourd'hui, tu n'as pas quelque chose à fêter?
Oui, mais je garde ça pour moi dans mon petit cœur.
Oh,
t'as quoi fêter?
Il est né en 1979, le divin enfant.
Eh oui.
Oui, celui qui apporte le bonheur et la félicité sur les sports automobiles.
Et qui récolte la malchance.
Celui qui apporte aussi beaucoup de malheur sur les moteurs, mais...
Mais ça, on s'en prend, ça c'est le 17, t'attendras l'année prochaine, tu dis.
Voilà.
Bah non, justement, c'était l'an dernier qu'il fallait penser.
Par contre, on peut citer quelqu'un d'autre qui est né un 16 octobre.
Mais est-ce quelqu'un que je connais?
Tu le connais, indirectement, tu le connais.
Oui, j'ai vu à la télé.
Non. Tu l'as entendu à la radio. Shinji, tu le connais bien, toi aussi.
C'est Shinji?
Non, mais presque.
Ah, Enzo!
Eh oui, hier, c'était l'anniversaire d'Enzo, dont je tairai par égard pour son grand âge. Son âge, justement. Donc voilà, donc on en profite pour le saluer, nous c'était un bon anniversaire. Voilà.
Bon anniversaire, Enzo.
Même si tu n'as pas eu la chance de naître le même jour, t'es triste. Allez, on va passer à l'actu.
Ah oui! Alors l'actu, messieurs, comme il n'y a eu qu'une semaine, je vous propose de... On va abandonner le podium de l'actu.
On va faire 10.
On va passer à un top 10.
Voilà.
Mais, je vais définir quelques règles avant, d'accord? C'est 10 actus. Sincèrement, comme il n'y a pas eu de grosses actus, c'est que des petites actus, c'est pour ça que j'en ai pris 10. C'est des actus, je vous donne la position, on parle, s'il y a besoin, on débat une minute, et puis comme ça, ce sera fait. C'est histoire d'un petit peu comme étoffer cette partie actu.
D'accord.
En 10e position, vous avez préféré lire l'article qui s'intitulait « Sergio Pérez ne manque pas d'humour, puisque ce bon vieux Sergio a fait une petite blagounette à la fin du Grand Prix du Japon. »
Très partagé sur ce truc. À la fois, je me dis « Ouais, c'est marrant, il fait une blague. » Et en même temps, au moment où il le fait, je me dis, je serais à la place de l'ingé, mais du directeur de l'équipe, ça, j'aurais envie de le tuer.
Ouais, c'est dans le dernier virage.
Ouais. C'est, ouais, voilà.
Il a dit
que c'est très bien quand il fait que quand il va arriver, les mecs vont être soulagés.
Mais non, mais c'est pas dans le dernier virage qu'il dit qu'il a un problème.
C'est dans le dernier tour.
Ah bon?
Ils avaient une inquiétude sur le moteur ou je sais pas quoi, et ouais. Donc, dans l'un des derniers virages, il a dit « Les gars, on va pas arriver à la fin », donc du coup, les mecs se sont dit « Ah oh, merde, putain, à si près », et puis lui, il est passé devant, et les mecs se sont dit « Ah, le salaud !» Voilà, donc c'était une petite blagounette, voilà. Ça aurait été en milieu de course, c'est vrai que je suis assez d'accord avec toi, Shinji, je suis partagé, ça aurait été en milieu de course, bon, il aurait mérité une paire de claques. Voilà, c'était à la fin de la course, c'était un peu pour détendre l'atmosphère, et du coup, le point de la, je crois qu'il avait 6e, le point de la 10e place a eu plus de saveur, parce que finalement, ils ont eu l'impression que c'était un miracle que les voitures ne voient l'arrivée. Voilà.
Bon. C'est bien foutu de...
Allez,
on passe à la 9e actu.
Ouais.
Et en 9e actu, il s'agit d'une chronique, la chronique hors piste d'Axel, la semaine dernière, qui s'intitulait, et si l'on s'intéresse au dernier, hein, qui s'intéresse à cette partie obscure du peloton, hein, vous savez, ce petit truc qu'on voit très rarement, sauf quand ils se font prendre un tour, c'est-à-dire Lotus, Virgin et HRT, voilà, un petit bilan rapide.
Déjà, c'est courageux de parler de trois lignes mode lock. Là, je dis bravo. Voilà. Non, mais c'est vrai, il le mérite. C'est super consensuel ce que je viens de dire.
Bon, il y a quelques pilotes qui ne peuvent pas forcément trouver de porte ailleurs.
Je ne comprends jamais pourquoi Glock a signé plusieurs années chez Virgin.
Oui, c'est ça qui est étonnant.
Il est persuadé qu'en 2014, il se battra pour le podium.
Ouais. Mais tu sais, en même temps, Elisabeth Tessier a dit qu'hier, Marc Aubry gagnerait. C'est à peu près du même niveau, tu vois.
Bon, du coup, on passe à la 8e actu, messieurs. Et une actu liée à un petit événement qui s'est passé dimanche dernier, hein, puisque Red Bull a fêté son titre sur le toit du monde, dans l'Himalaya. Waouh, trop cool, Raoul. Avec, je crois que c'était Neil Yanni qui était volant de la Red Bull du roadshow.
Donc, pour fêter un titre pilote, ils sont allés tout en haut de l'Himalaya avec pas le pilote.
Mais il pouvait pas, parce que le pilote, il fallait qu'il gagne son titre, c'était pour un symbole, tu me dis.
Bah oui, mais bon, à la limite, tu la mets à Disneyland, c'est moins dangereux, mais au moins, tu peux avoir Vettel, hein.
Mais ça dépend de quel Disneyland, si c'est Disneyland Paris, Vettel pouvait pas venir.
Mais un Disneyland.
Puis en même temps, Disneyland, c'est pas au sommet du monde, alors que là, l'Himalaya, c'est comme le sommet du monde, c'était ça le symbole.
Oh, t'es jamais monté en haut du château de Blanche-Neige, de la Belle au Bois Dormant, C'est très Red Bull, voilà. Ouais, tiens, on monte un truc en haut de l'Himalaya.
Donc, on passe à la, on passe passe à la septième actu, dont on a déjà parlé puisque c'est la chronique du jour. Dire que c'est vraiment un sujet qui touche les gens puisque c'est déjà dans le top 10 alors que ça a été publié il y a quelques heures seulement. Mmh. C'est la chronique de Ben qui s'appelle A Sad Sad Day à propos de la disparition de Dan Weldon. Voilà. Je passe donc à la sixième actu.
C'est rapide.
Un article qui s'intitulait, alors ça c'est bon, les rétroviseurs responsables de l'incident Hamilton.
Ah c'est énorme.
Voilà. Hein, puisqu'il faut savoir que il y a eu tout d'un coup, hein, je crois on en a parlé un peu la semaine dernière, il y a eu tout d'un coup cette suspicion sur le fait que si Hamilton ne voit pas et qu'il rentre dans les autres, c'est peut-être parce qu'il ne voit pas, et s'il voit pas, c'est peut-être à cause des rétroviseurs qui sont mal conçus. Donc,
voilà. Problème de lentilles aussi.
Oui, on a eu le droit à tout. Hein. D'ailleurs, ce week-end, on a aussi le droit à plusieurs versions, plusieurs rumeurs.
J'ai devant moi un dossier médical qui a été fait à Princeton Plainsboro. Hein, qui dit que le responsable des accidents de Hamilton se situe exactement entre les deux oreilles d'Hamilton.
Oh, c'est très poétique, bravo.
Donc voilà, c'est pareil, vous allez concerner, on passe à la cinquième.
Ouais.
Alors, en cinquième position, il y avait ce questionnement, cette interrogation existentielle, puisque vous savez, vous n'êtes pas sans le savoir, l'événement du week-end dernier, c'était le titre de Sébastien Vettel, et naturellement, le lendemain, on s'est demandé, enfin Briatore surtout, s'est demandé si Vettel était plus fort que Hamilton et Alonso, et il a fait une réponse de Normand en disant en qualification à matériel égal il serait devant Hamilton et Alonso, mais en course c'est mon Fernando qui est meilleur.
Oui, mais c'est pour ça que j'ai pas été surpris de la réponse de Briatore, quoi. Forcément il a énormément d'estime pour Alonso, donc
ça a été son agent.
Oui. Non, et puis surtout ça, que on a à peine vu à Monza que c'est vrai qu'on a vu que face à Alonso Vettel avait peur.
Ah oui.
Voilà, que face à Vettel aussi, face à Hamilton aussi, il avait super peur. On l'a vu dans le premier tour de Corée.
Il avait tellement peur qu'il s'est empêché de s'en aller tout de suite.
Oui, vite, je me dépêche parce que j'ai trop peur.
Ouais.
Donc voilà. Donc quatrième actu. Oui. La Red Bull RB8 pourrait rater le début des essais hivernaux. C'est des déclarations d'Helmut Marko qui a déclaré que si Adrian Newey avait besoin de plus de temps, il lui laisserait plus de temps, quitte à devoir le début des essais hivernaux.
C'est
ce qui s'est passé, pas cette année, mais il y a 2 ans,
voilà.
Il y a 3 ans, avec la RB5 et la RB6.
En fait, ce qui pourrait être intéressant, c'est pas la RB8 pourrait être absente pour les premiers essais hivernaux. Je pense que ce qui serait intéressant, c'est la RB8 serait absente pour les premiers Grands Prix.
Oui, c'est une stratégie. Ce qu'avait fait Ferrari, moi, au départ, sincèrement, quand je suis tombé sur le titre, sur la nouvelle, j'ai pensé que Red Bull allait faire comme avait fait Ferrari une certaine époque, c'est-à-dire, voilà, ils vont passer les premiers Grands Prix avec la RB7, RB7 légèrement améliorée, et puis bien peaufiner la RB8 pour arriver en Europe. Et là, tuer la concurrence directe nette.
Non, mais moi,
Ferrari n'était pas la seule à faire ça.
Mais en fait, quand je disais, ça serait bien que la RB8 soit absente pour les premiers Grands Prix, je pensais surtout à Red Bull serait absente pour les premiers Grands Prix.
D'ailleurs, ça serait bien qu'elle soit absente jusqu'en 2013.
Une petite pause comme ça pour une année sabbatique.
Oui, ouais. Pour reposer les hommes, c'est ça.
Oui, voilà.
Mais c'est bizarre, j'ai pas l'impression qu'ils aient envie de se reposer chez Red Bull.
Je pense pas qu'ils soient trop fatigués chez Red Bull.
D'ailleurs, je crois que Vettel a pas du tout envie de se reposer en ce moment. Je sais pas, hein, quelque chose me dit, genre, regarde peut-être dans l'avenir, mais quelque chose me dit qu'il a pas envie de se reposer. Donc on passe à la troisième actu. Tu vois, Cindy, ça va vite dans ce temps-là.
Ouais.
On est encore sur le titre de Vettel, encore sur une célébration, mais ça c'est une célébration qui nous concernait, nous, hein, heureux possesseurs de la PlayStation 3 et du jeu Gran Turismo 5,
oui.
Puisque nous avons eu la surprise de gagner la Red Bull X 2010 de Sébastien Vettel dans Gran Turismo. Hein. Ne vous précipitez pas sur votre PS3, c'est trop tard, c'était jusqu'au 16. Voilà, vous l'aviez gratos, et il y avait en plus une petite épreuve où vous pouviez gagner 5 millions de crédits, qui était facile, mais vraiment très facile. Donc voilà, c'était un petit geste sympathique de la part de Polyphony Digital qui donc a mis en disposition quand même la voiture la voiture conçue pour GT5.
Oui. Quoi, c'est un voiture cadeau. Un peu stardu quand même.
Voilà, c'est un super cadeau. La deuxième actu, c'est une qui est intervenue ce week-end, et là Shinji, tu vas être énervé.
Ah.
Oui, parce que tu sais, c'est ce genre d'actu qui se dit mais pourquoi les gens ils vont voir ça, hein? Pourquoi? Surtout que tout est dans le titre quasiment. Il n'y a pas besoin d'aller voir plus. Mais pourtant, même moi, je suis allé voir cet article. C'est un article qui s'intitulait « Vettel complète la collection de casques de Barrichello ».
Wow, ça reste quand même... Enfin, c'est pas genre, ils ont échangé leur slip, tu vois. Il lui a offert un casque, voilà, il fait collection de casques.
Alors, c'est le casque du Grand Prix de Chine, je crois. Donc, c'est pas un casque vainqueur. C'est
oui,
casque,
le casque de...
C'est ça, pardon.
C'est ce que j'ai pensé, en plus.
Oui. On passe à la première position. Et là, attention, alors là, là vous allez avoir la preuve de ce qu'on... Quand on met Schumacher dans un titre, ça cartonne. Là, c'est... Mais c'est même pas... Ça a été... C'est un article qui a été lu quasiment trois fois plus que le deuxième. Oui. Je vais vous dire à quel point ça a été lu. C'est un article qui s'intitulait... Et d'ailleurs, c'est même pas un article, c'est une chronique. C'est la chronique de Ben de la semaine dernière qui s'intitulait « Et si le retour de Michael Schumacher n'était pas raté ?»
Ah, ah bah rien que le titre du métal.
Voilà. Ça fait plaisir de lire un titre comme ça.
Ah bon? Alors, nous, on a un peu parlé de Schumacher la semaine dernière. Alors, vas-y, on te laisse, t'as une minute pour t'exprimer, on te laisse une minute.
Ben, j'étais bien content parce que petit à petit, Schumacher retrouve de sa superbe. Toujours un Petrov ou un Perez pour l'empêcher de tirer les courses, mais il est là, il est dans le coup, il est juste derrière Rosberg en qualif, il est la moitié du temps devant en course, il fait vraiment une fin de saison très bonne et on est en train de retrouver Schumi et ça me fait très plaisir et voilà, je suis content.
Il est juste derrière Rosberg en qualif et c'est une source de satisfaction.
Il a 41 ans, un mec qui est 17 ans plus vieux ne peut pas aborder les qualifs d'une même façon, alors qu'une course c'est différent.
Mais c'est Schumacher, c'est un surhumain, je sais pas, il devrait être devant.
Non, mais Schumacher déjà à l'époque il était pas déjà très bon en qualif. Parce que battre le record de Senna que pour trois pôles, moyen. Sans rire, même avant sa retraite, il était largement meilleur en course qu'en qualif. Le qualif, il était très bon en qualif, mais c'était pas son point fort.
Mais Schumacher, c'est pas nécessairement le pilote le plus rapide intrinsèquement, mais c'est le pilote qui sait être le plus rapide quand il faut. Voilà, c'est une intelligence de course incroyable. Moi, c'est ce que j'adorais chez lui, quoi. C'est son sens de la course, et c'est vrai que c'est ce qu'on retrouve un peu sur cette fin de saison. C'est son sens de la course, son sens du. Voilà, il a un feeling. Senna, il sentait le matériel, il sentait sa voiture. Schumacher, il sentait plus la course. J'ai l'impression plus la dynamique de la course. Il savait à quel moment rentrer, à quel moment faire des tours, etc. C'était un pilote très intelligent. Ça l'est toujours là.
Oui. Il y a la stat, hein, 68 pôles, 95 victoires, hein, qui témoigne de la différence.
93.
91.
Le 91 en plus, oui.
Je m'avance un peu peut-être.
Tu t'avances même beaucoup. Parce que 4 victoires à faire l'année prochaine.
Mais en plus, j'ai même pas fait exprès, quoi. Moi qui. Je connais, quoi, le chiffre. Et pourtant, je sais pas pourquoi j'ai balancé ce chiffre-là. Bizarre.
On peut passer aux citations peut-être. Ouais. Écoutez, moi j'ai deux petits trucs. Je vous propose d'ouvrir et de fermer.
D'accord.
C'est pas deux citations. Il y a une citation puis il y a autre chose.
D'accord. Vas-y.
Donc même la citation, elle est très courte. Hein. Enfin, elle est très longue, mais je vais pas non plus m'attarder pendant 3 heures dessus. C'est une citation de Sébastien Vettel qui a déclaré :« Ce n'est pas moi. Je ne suis pas sur Facebook ni sur Twitter. Je préfère avoir des contacts plus personnels avec mes fans, notamment lors des séances de signature d'autographes, parce que je crois que c'est le journal Bild qui a révélé qu'il y avait eu 7 ou 8 comptes qui se prétendaient officiels Sébastien Vettel et que lui il a dit non, ça c'est pas moi. Moi je suis pas sur Twitter. Et d'ailleurs apparemment il lutte pour que ses comptes soient fermés, puisqu'il doit sans doute s'y dire des choses.
Bah oui, il n'est pas le seul personne connue à avoir des faux comptes Twitter, malheureusement.
Mais il y a
faux comptes Facebook.
Il me semble qu'il y a eu des problèmes avec des problèmes juridiques avec Twitter, non? Il y a quelque temps.
Je suis pas sûr.
D'accord.
Baraculo, ils sont sur Twitter.
Ils ont des systèmes de comptes vérifiés justement pour les personnes un peu connues. Pour bien dire, voilà, c'est le vrai Twitter. Ouais.
Mais d'ailleurs, c'est pas plus mal parce que Twitter, c'est sympa pour parler entre groupes de personnes que tu connais ou pour avoir les informations. Maintenant, quand on suit un peu les comptes Twitter de Barrichello, de Button, de Weber, il y a quasiment, je vois pas en quoi ça rapproche le pilote du fan, parce que les mecs se parlent quasiment qu'entre eux. Ils répondent très rarement à leurs fans, mais souvent à des fans qu'ils connaissent, qu'ils ont déjà rencontrés. Donc nous, depuis notre salon, on n'a pas non plus la grande probabilité. Moi, j'ai essayé de parler un peu avec Barrichello, voilà, de leur envoyer des petites questions et compagnie, et j'ai jamais une réponse. Alors c'est soit que mes questions étaient très connes, peut-être, soit voilà, je pense qu'ils peuvent pas répondre à tout le monde, quoi. C'est pas possible.
Non, pas sûr. Oui.
Il y a aussi un petit côté malsain, quoi. C'est-à-dire que tu vois la vie du pilote, franchement, des trucs t'as rien à foutre, quoi. Les films que regarde Heikki Kovalainen, ses scores au badminton, bon, voilà, c'est sympa, c'est rigolo, mais t'en as un petit peu rien à glander.
À défaut de brouiller sur les Team Lotus, c'est toujours bien de montrer ses talents au bad.
Oui. Mais après, du coup, t'as aussi les mecs qui ont des comptes, mais que c'est le compte officiel, mais tu vois que c'est pas eux qui le gèrent. Parce que, par exemple, on me fera jamais croire que Nick Heidfeld hit pendant les qualifications.
donner ma.
Vous avez une déclaration, messieurs?
Oui, donner la mienne. Alors, c'est la déclat communiqué de presse. Hein. Ça m'a fait marrer. C'est les compétences de Puma dans la conception, le développement et la distribution des produits sous licence pour les fans des flèches d'argent dans le monde est également quelque chose d'incroyable. C'est un partenariat clé pour Mercedes GP et c'est un de ceux que nous sommes ravis d'avoir conclu, puisqu'on a appris que Mercedes GP avait conclu un accord avec Puma, qui auparavant était partenaire avec
Ferrari.
Voilà. Et ça, ce qui me fait marrer.
Et ils ne sont pas toujours avec Ferrari d'ailleurs.
Bah, au moins jusqu'à cette année. C'est à partir de 2012 hein, le partenariat avec Mercedes GP. Donc je pense.
Oui, mais je crois que c'est un partenariat avec Mercedes, mais qui est totalement distinct. Ça remplace pas le partenariat
non,
Ferrari.
Mais surtout, j'ai l'impression que cette équipe. Bon, vous allez me dire, à la base, il y avait Rose Brown, hein. Mais Mercedes GP, c'est quand même une équipe qui est dirigée par Rose Brown, qui a récupéré Aldo Costa, qui fait rouler Schumacher.
C'est Ferrari sans la peinture, quoi.
C'est ce que j'allais dire. J'attends le prochain communiqué de presse où ils vont dire qu'ils vont repeindre les voitures en rouge.
Ah, la rage. Le truc horrible.
Parce que je sais pas, c'est le nouveau Toyota Mercedes. Hein. Toyota, c'était la copie carbone de Ferrari parfois. Pas tout le temps, parfois. Et là, je sais pas pourquoi Mercedes, alors, voilà, ils vont même jusqu'à aller charger les mêmes sponsors.
Surtout que sincèrement, s'il y a bien une écurie qu'il faut pas copier en ce moment, c'est peut-être Ferrari.
Voilà, ça m'a fait rire, c'est cette ferrarisation de Mercedes. Ça devient de plus en plus inquiétant, hein, cette équipe. Hein.
Rose Brown est peut-être nostalgique.
Ah bah là, ouais.
Bah qu'ils reviennent alors.
Mais attends, mais bientôt il va piquer Henri Barnes. Et après tout, Massa, il a pas de contrat après du.
Ah oui, fou qu'il remplace Schumi. Ben je.
Massa chez Mercedes.
Mais franchement, je trouve que ce serait vraiment pas con, quoi. Et...
Ah non non, s'il va chez Mercedes, c'est pour remplacer Rosberg.
Ah ouais, oui, à la limite, oui.
Bah Schumi ouais. Et Massa chez Mercedes.
Ouais. Ah génial, ce serait génial. J'adore. Ouais.
Avec bien évidemment Alonso et Rosberg chez Ferrari. Ah, d'accord.
Mais je me demandais où t'allais placer Rosberg du coup.
Bon, que... fallait pas chercher bien loin. Hein. C'est moi, je fais un échange de standard. Je veux bien envoyer Massa chez Red Bull. Hein. Un petit Massa Weber, ça me dérange pas.
Ah oui, bon, ça devrait être génial. Ça.
Sinon, Bilo, ta citation.
Eh bien, merci Bilo, c'était une citation super intéressante.
Moi, j'abandonne.
Quoi, t'as pas de citation?
Non, mais c'est la citation d'Alonso.
Ah, d'accord.
Ah, mais c'est pas ça, mais c'est pour faire genre.
Mais c'est... Non, parce qu'il y a une autre citation d'Alonso aussi.
C'est laquelle, toi, pourquoi je prenne la même?
Bah, il y a une citation où il est revenu, sans le citer sur le cas Hamilton, en disant... quand vous...
Hein? C'est pas un hasard si on est pénalisé.
Oui, ouais. Voilà, quand on est convoqué six fois chez les commissaires, c'est pas un hasard. Ouais. C'est pas forcément tout le temps dû à la malchance ou un truc dans le genre.
Bon, alors je vais prendre. J'hésite entre. Ouais, allez, je vais prendre Stefano Domenicali qui dit je crois que oui, je crois que cela pourrait fonctionner. Donc à propos.
Ah bah.
Oui, moi aussi j'y crois.
À propos du rêve de toutes les nuits de Dino qui pourrait se réaliser avec Alonso, Vettel chez Ferrari.
Non. Moi mon rêve c'est Vettel chez Ferrari. J'ai jamais dit que j'allais garder Alonso.
Ah bon.
Si je peux le garder, c'est bien, mais si jamais Alonso dit c'est moi ou Vettel, moi je dis c'est Vettel.
Que pour de Cali, enfin Ferrari, tout est possible. Hamilton chez Ferrari, c'est possible. Rosberg chez Ferrari, c'est possible. Vettel chez Ferrari, c'est possible. Tout est possible chez Ferrari.
Oui, bah, ils savent très bien que Alonso dira, ah, non, ça c'est pas possible. Milton, ah, bah non, c'est pas possible. Rosberg, oh, bah, peut-être que non, c'est pas possible.
Sans doute.
Mais j'avais un pilote, là, qui était pas mauvais, là, comment ça s'appelait, Fisichella, voilà, bah, ouais, là, ça sera bien. Non, parce que franchement, bah, bon, les gars, vous êtes sympas, quand même, mais ça fait quand même 2 saisons qu'on roule avec une seule voiture, ça serait bien, quand même, de me trouver quelqu'un, quoi, parce que, là, il y a toujours 2 voitures dans le garage, mais à chaque fois que je sors, je suis tout seul, merde.
Bah, je trouve qu'Alonso n'a pas été si transparent que ça.
Salaud.
Ah, tu veux chercher.
Oui, j'avoue, je donne le bâton pour me faire battre.
On va passer à la course.
Alors juste, j'avais un petit petit jeu à vous proposer. Je vais vous donner un petit chiffre et vous essayez de deviner ce que c'est que ce chiffre. Oh. D'accord. C'est pas un chiffre, c'est un nombre.
Oui.
C'est le nombre inutile de Dino. C'est le chiffre 663. Enfin, le nombre 663.
Oh là là. Tu réponds par oui ou par non?
C'est pas une distance. Oui, je réponds par oui ou par non.
C'est un nombre de Grand Prix?
Mais non.
C'est une durée.
Une durée. Une durée, non.
Une altitude.
Non.
Tu me fais peur à chaque fois que tu dis avec cette idée. Oh, c'est une altitude.
C'est un temps de cuisson.
Qu'est-ce qui t'amène à dire un temps de cuisson, moi, je veux dire?
Explique-moi un petit peu ce raisonnement. C'est quelque chose qui cuit, par exemple, pendant 663 minutes, ou, voilà.
D'accord, ok.
C'est des degrés. Je fais bien avec le temps de cuisson, ça.
C'est vitesse?
Non, c'est pas une vitesse.
C'est un nombre de quelque chose.
C'est pas un nombre de quelque chose.
Mais c'est quoi, alors?
C'est un nombre de quelqu'un.
C'est pas le nombre de quelqu'un, non. Voilà. C'est pas un nombre de personnes.
C'est une circonférence.
Non.
Mais c'est quoi l'unité alors? On a tout fait là. C'est la pression atmosphérique, quelque chose comme un truc qui a un rapport avec ça.
Non.
C'est un voltage.
Non, pour tout vous dire, ça n'a pas d'unité.
Oui, ben c'est un nombre de quelque chose ou de personnes.
Non, c'est pas une unité. Il n'y a pas d'unité. Il y a pas de. C'est pas 663 quelque chose. C'est 663.
C'est une somme. Un résultat d'une opération.
Non.
Ah, c'est quelque chose qui est affiché quelque part. C'est le chiffre qui est affiché quelque part.
Affiché, oui, peut-être, oui. Donc, messieurs, je vous rappelle, le nombre à chercher, c'est le nombre 663. Il n'a pas d'unité et il pourrait être affiché quelque part.
Qu'est-ce que ça a à part avec la F1
ça, mais oui, ça a un rapport avec la F1. Pour ça, je le mets dans la section actu.
Est-ce que ça a un rapport avec le Séoul Game Show?
Non.
Ça a un rapport avec la Corée?
C'est la blague.
Non, ça n'a pas de rapport avec la Corée.
Avec le Japon?
Non.
L'Inde?
Non.
Abu Dhabi?
Non, vous n'allez pas non plus me faire tous les pays.
Est-ce que ça a un rapport avec un Grand Prix?
Non.
Est-ce que ça a un rapport avec un pays?
Non.
Avec une équipe? Non.
Avec une équipe, oui.
Red Bull.
Je vais pas vous faire toutes les équipes, les mecs. Non. Faut vous preniez un peu.
Ah bah, il faut bien qu'on devine laquelle c'est.
Posez des questions, voilà, essayez de trouver des questions un peu dérivées.
Est-ce que c'est affiché sur le motorhome d'une équipe?
Non.
C'est un nombre d'employés?
Non, c'est pas un nombre de quelque chose.
Ah, non.
Je dirais que c'est un nombre, c'est... Non, je peux pas vous en dire plus. Mais je voudrais bien vous en dire plus, mais je peux pas. Ça serait moins drôle.
C'est un nombre, alors?
C'est un nombre. Mais oui, c'est pas un nombre de quelque chose. C'est pas quelque chose qu'on peut quantifier.
C'est un numéro?
C'est un numéro.
Un numéro de... Ah, c'est le numéro 663 du Red Bull Team.
Non, ils en ont sorti beaucoup, hein.
Bah, un personnage. Ouais.
C'est en rapport avec quelque chose qu'a fait une équipe?
Non, c'est en rapport avec quelque chose que va faire une équipe.
Ah, les 663, c'est non, c'est un rapport avec McLaren au Mans?
Non. Pourquoi tu pensais à quoi?
Non, je sais pas, parce que récemment, Button et McLaren étaient intéressés pour participer aux 24 heures du Mans.
Bah, Button était intéressé et Whitmarsh lui dit, écoute, on va peut-être attendre. Ne te presse pas.
C'est un rapport avec...
Par rapport à un changement de nom d'une
petite
équipe
ou une grosse équipe?
C'est pas un changement d'une équipe et c'est plutôt une grosse équipe.
Est-ce que c'est le numéro du châssis de Vettel?
Non, mais on n'est pas loin.
De Weber?
Ça concerne une voiture?
Ça concerne une voiture.
Ah, King Kylie?
Non.
Ça concerne une future voiture?
Ça concerne une future voiture.
C'est une Red Bull?
Bah, en fait, ça serait le nom d'une future voiture.
Oui, d'une certaine manière.
La future McLaren?
C'est le nom provisoire.
La future Red Bull?
Non.
McLaren?
Non.
Ferrari?
C'est le nom du projet actuel, du projet 2012 Ferrari, ça s'appelle le projet 663.
Ah,
voilà.
Oh.
Je suis tombé sur ça il y a pas longtemps, en lisant un article comme ça, le projet 663, je fais, ah, bon, bah voilà, le genre d'information dont on n'a rien à foutre, puisque la Ferrari s'appellera F2012 ou F12 ou un truc dans le genre, on est bien content de le savoir. Puisque Ferrari, hein, il faut savoir que Ferrari donne un nom à ses projets, pour mieux le débaptiser après, pour ensuite être confronté à Ford qui gueule, donc rebaptiser sa voiture, puis ensuite devoir encore la rebaptiser juste par orgueil. Ce Ferrari, c'est des rois du baptême. Donc voilà, 663, c'est le nom du projet Red Bull, du projet Ferrari en 2012. Mais ils risquent d'être fortement inspirés par Red Bull.
Non, ils ont dit que ce serait très révolutionnaire.
Oui, bah inspiré par Red Bull, alors.
Révolutionnaire.
Mais en fait, voilà, ce sera très révolutionnaire pour eux. Ils n'ont pas l'habitude d'aller dans ces chemins-là.
Donc voilà, c'est tout pour l'actu, messieurs. On peut passer aux qualifications, si tu veux.
Oui, c'était un bon chiffre. On passe donc à la course, et donc forcément au qualif. Et encore une fois, hein, on a eu le coup classique hein, des pas de temps. Mais on va quand même commencer par la place du con. Hein. Et cette semaine, la place du con, c'est quand même la place d'un type qui dit qu'il fera aussi bien que Kimi. Hein.
Ouais, il a raison. Il a tout à fait raison.
Écoutez-le, le lâche. Il s'en prend un faible.
Ouais, non, c'est vrai, on va pas taper Kimi, sur une ambiance. C'est Rubens qui n'a pas passé la Q1.
Mais oui, mais il l'a fait exprès. Ah, c'est pour ça que
Ouais.
c'est un demi-con. C'est un demi-con. Il n'a pas fait exprès. Enfin, il a fait exprès d'être éliminé pour avoir plus de pneus.
Ouais, en même temps, il aurait pu être... Ouais.
Bah, il aurait pu. Voilà.
En même temps, lui a fait un
Il
temps.
a...
Pas comme Ricciardo.
Messieurs, est-ce que vous pourriez faire des phrases complètes, s'il vous plaît? Je me porte garant, en fait, si vous voulez, de la compréhension de cette émission, et j'aurais besoin de temps en temps que vous fassiez des phrases complètes. Quitte même à vous répéter au sein même des phrases. N'hésitez
C'est
pas à...
réducteur.
Je notais que Rubens, bon, a la place du pont, mais lui a fait un temps, puisque Ricciardo, lui, n'a pas fait de temps, hein. Encore une fois, enfin, encore une fois, un pilote n'a pas fait de temps. En général, Ricciardo, il fait
Oui, enfin
un
lui,
temps.
il avait pas le choix.
Oui.
Oh merde.
Oui, il a eu un problème technique, je crois.
C'est qui ça? Mais c'était quoi ça?
Bilou, il lui arrive des trucs, c'est chez lui, mais...
Oui,
Mais non, c'est pas chez moi, je vous jure, c'est pas moi.
Ah, arrête, Bilou.
Ah, je vous jure, j'ai rien fait. Non, non, c'est pas moi.
Ah, vous, c'est chez toi.
Raciste. Non, mais non, c'est pas moi, je vous jure.
Oui. C'est ta télé, alors.
Maintenant, elle est éteinte.
C'est ton
T'es
téléphone.
sûr, Dino, que c'est pas le
Ah,
tien? Je suis sûr de quoi, Chidi? Je disais, t'es sûr que c'est
c'est
pas F1
Alonso
2011?
dans sa 500.
Non, 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 c'est pas moi, sûr,
C'est
certain.
Alonso dans sa 500.
Allez, on va passer à la suite et à la Q2.
Oui, qui n'a pas roulé en
Déjà.
Q2,
Eh ben,
Shinji?
personne, tout le monde a appelé. Tout le monde a fait un temps.
Ah.
Chose,
Oh.
hein.
Oh.
Waouh.
Ah, ils sont
C'est
courageux quand
historique.
même. Oui.
Alors, on notera Perez, hein, qui n'a fait que 7, hein, quand même. C'est loin de son meilleur niveau.
Bah,
Il faut bien lisser.
Kobayashi, t'es pas plus
C'est
près, hein.
14. Mais la sensation quand même de la Q2, ça a été oui. Hein, attendez quand même
Ah.
pas à le voir stopper en Q2.
Non,
Ouais.
mais
il a fait exprès.
Bon, quand même, je pense que s'il avait fait Q1 en Q3.
Il y a aussi Senna.
Oui?
Mais je suis désolé, oui, pardon, il y a aussi Senna éliminé en Q2.
Alors juste les mecs, si vous coupez, essayez de finir vos phrases, ça m'arrangera au montage.
Mais en plus, toi, je coupe pour le laisser parler après.
Pardon, je suis désolé, mais à chaque fois j'hésite avec Shinji parce que je sens que je le coupe au mauvais moment, et donc du coup je me
C'est
tais.
pas grave, c'est Shinji, il a rien à dire, Shinji, t'inquiète pas.
N'hésite pas. Ah, puisque c'est comme ça, on va passer en Q3, hein, point. Ou encore une fois, il va falloir donner des baffes à Force India. Parce que eux, par contre, ils n'ont pas roulé.
Mais pourquoi autant de violence, Shinji?
On va leur donner des baffes à Force India. Ce sera pas trop méchant. Mais ils méritent des baffes quand même.
Oui.
Hein.
Mais
En même temps, ils font profiter d'un système, hein.
oui, voilà, c'est qu'on va pas. Moi, je trouve ça un peu gonflé à chaque fois, protester, ouais, ils sortent pas, c'est nul. Voilà, le règlement est comme
Bah,
ça,
c'est pas de
comme
leur
ça jusqu'à
faute.
la fin de
À
saison.
eux, voilà. Ça, on donne des petites baffes.
Voilà.
Des petits petits.
Mais non, je suis pas, je proteste. Parce que, voilà, c'est stratégique. Force India, ils ont aucun intérêt à sortir pour faire un temps. Devant eux, il y a les trois
Non,
plus grosses équipes, il y a une Mercedes et il y a une Renault.
c'est vrai
Ils ont
qu'elles sont
aucun
quand même
intérêt. Il vaut mieux qu'ils conservent leurs pneus.
On va pas
Et une
faire.
Renault quand même.
Oui,
Oui,
Renault,
ben,
pitié.
intrinsèquement, la Renault est plus rapide.
Oh, je suis pas sûr.
Oh.
Ils ont
Oui,
quand même un petit moteur Mercedes qui.
Non, mais après, il y a le facteur pilote dans la Renault qui fait qu'ils sont pas trop rapides.
Ah, ça c'est méchant, ça c'est
Ça
bas.
c'est bas.
Oh,
C'est pas
non.
totalement faux, mais c'est bas.
Oui, mais enfin, je le dis. Voilà.
On notera
Non,
aussi.
mais...
En 5e et 6e place, les Ferrari avec Massa devant Alonso. Alors, désolé.
Hey.
T'es passé, Shinji, là, c'est pas nécessaire. Oh,
Voilà.
t'es pas s'acharner sur un homme qui est à terre.
Pour la quatrième fois en 6 courses, en
Là,
6 six... ouais.
vous vous rendez compte, quand même, ce pauvre Felipe, même pour lui donner le moral, Fernando est obligé de faire des erreurs dans sa qualif pour le laisser devant,
Oh
juste pour lui
non,
redonner
il a
le.
pas fait d'erreur. Il était poululant, c'est tout.
Non, mais c'est parce qu'il est obligé de réduire le régime moteur pour pouvoir permettre à Massa d'être devant, pour lui redonner un peu le moral pour 2012. Mais c'est bien, ce que franchement, tu vois, j'en respecte d'autant plus Alonso. C'est courageux ce qu'il fait. Il se sacrifie pour son numéro 2 pour être sûr que l'année prochaine il aura la forme. Il veut lui redonner le moral. C'est gentil pour quelqu'un qu'on prétend pourtant inhumain. Je trouve c'est gentil de la part de Fernando. Merci
C'est le
Fernando.
moral qui lui a bien détruit en passant devant lui au Grand Prix d'Albany 2010.
Bah,
Mais
il est
t'aurais dû
passé
pousser
pour lui parce que Massa il était plus lent, c'est tout.
Bien sûr.
Enfin, c'est parce que Fernando était plus rapide que vous comprenez le message. Fernando était plus
Ouais.
rapide. Rien.
Allez, on va passer quand même à le grand fait quand même des
Bizarre.
qualifs. Le
Ah oui, à un
grand.
moment donné. Vous avez vu à un moment donné?
Incroyable.
Quoi?
Non mais sincèrement, vous avez vu à un moment donné, il y a un canard qui a traversé la piste. Ça, c'était super important. Et alors je crois que ce truc-là, Shinji, on peut tout de suite passer à la course, tu vois, parce que, bon, sincèrement, après le canard à Jacques WC qui passe au milieu de la piste, il n'y a pas besoin d'en parler plus.
Donc c'est vrai, Button n'a fait que troisième.
Oui.
Hein? Ça va, ça te convient pour l'instant?
Oui, pour moi, ça va. Mais justement, intéressons-nous à la course de Button, voyons ce qu'il a fait en course, ça serait bien.
Ce qu'on retiendra de ces qualifs, c'est donc pour la première fois en 15-16 courses
quelque chose comme ça. Quoi tu parles.
Cesse de filer.
C'est du déni, tu vois. Il y a le déni grossesse, lui, il fait du déni de pole position.
Je ne dénie rien, mais c'est juste qu'on n'a pas vu la même qualification. Je suis désolé. Ah.
Donc, Lewis Hamilton, qui prive Red Bull du grand chelem.
Non, c'est la FIA qui prive Red Bull, parce que je comprends pas pourquoi est-ce que la FIA, sincèrement, vous devriez être scandalisé par le comportement de la FIA qui a décidé d'intervertir les lignes, ce qui fait qu'Hamilton s'est retrouvé devant Vettel. C'est un scandale.
Intervertir les lignes, quand ça?
Oui. Ah. Ils ont interverti les lignes sur la grille, puisque Vettel était pas premier, il était deuxième, alors qu'il était premier en qualification, et voilà, c'est un scandale, je suis désolé, c'est, faut dire les choses telles qu'elles sont. Ils ont décidé de mettre sur la ligne intérieure, comme ça, comme
Senna Dino,
c'est, moi je dis c'est un scandale.
Dino, Vettel a fait un temps plus lent qu'Hamilton.
Non, c'est pas possible, possible que Vettel, non, c'est pas possible, arrêtez de dire que Vettel, non, Vettel ne peut pas être lent, c'est pas possible.
Il est pas lent, il a été un tout petit peu plus lent qu'Hamilton.
Ouais, non, surtout face à Hamilton.
Non, voilà, surtout, c'est Hamilton, quoi, merde. Hamilton, il pouvait pas rentrer dans Massa, hein. Il fait quoi, la Massa, à ce moment-là, à part embêter Alonso, hein?
Mais, tu peux au moins avoir un peu d'action. C'est que Lewis a fait la gueule. Après,
non, voilà, reste sur Lewis fait la gueule, mais t'en dis pas plus, tu finis pas ta phrase, sinon je te jure, je bouffe un poussin.
Alors, c'est très con, parce qu'en plus, je voulais faire un drive-through là-dessus.
Ah, vas-y, alors, vas-y, fais-toi plaisir.
Ceci est une alerte du service après-vente de la F1. Un animateur va émettre un drive-thru. Vous pouvez en profiter pour vous préparer un café, acheter des croissants ou encore repasser votre linge, mais vous pouvez aussi l'écouter. On sait jamais.
Voilà. Ah, ce n'est pas un drive-thru contre Lewis. C'est plutôt contre les suiveurs, hein, de, on va dire les observateurs de la F1. Alors oui, c'est vrai, Lewis il a fait la gueule.
Oui,
faut le dire.
C'est
peu de le dire. Oui, c'était aussi d'ailleurs tout à fait normal de lui demander tout simplement est-ce qu'il allait bien, parce que c'est vrai qu'après sa qualif, c'était bizarre qu'il fasse la gueule. Mais voilà, alors c'est toujours le même problème avec un pilote comme Lewis, c'est-à-dire que qu'il fasse un truc bien ou qu'il fasse un truc pas bien, forcément, ça génère plein d'articles, plein d'observations. J'ai envie de dire, voilà, on n'a pas été les derniers à le critiquer d'ailleurs au SAV, hein, faut bien le dire. Maintenant, quand il fait un truc bien, ce serait peut-être bien aussi un peu de lui lâcher la grappe, non, hein.
Ah non, oui, mais c'est que c'est juste.
Sincèrement, je comprends aussi les journalistes, c'est quand même qu'un pilote, alors, qu'on aura beau dire tout ce qu'on voudra, mais
qu'on lui pose la question, ça c'est tout à fait normal, c'est vrai que c'est surprenant de le voir visage assez fermé. Il y a quand même eu des délires, j'ai lu, alors il y en a qui ont dit qu'il y avait eu des mots entre l'équipe, c'est pour ça que malgré la qualif, c'était pas ça. Il y a quand même eu des journalistes qui sont allés sortir que en fait il avait rejoint le mouvement des scientologues et que ça l'avait affecté, des choses comme ça. Non mais du calme les gars, quoi.
Mais en même temps, je comprends, c'est-à-dire que sincèrement, il y a quelque chose de triste de voir un pilote qui réalise sa première pole en quasiment 18 mois, qui en plus est un pilote qui a quand même tendance à vraiment beaucoup s'enthousiasmer, le voir tout d'un coup sortir de sa voiture, la tête basse, les épaules basses, quasiment faire la gueule alors qu'il vient quand même de signer une magnifique pole position. Oh non, pourquoi j'ai dit ça? Pourquoi j'ai dit ça? J'ai pas fait un putain. Il vient quand même de réaliser une magnifique position. Il y a quand même quelque chose d'inquiétant, et ça je comprends aussi. Presque,
je demande,
mais qu'est-ce qui lui arrive, quoi? Qu'est-ce qui lui arrive?
Je pose la question, mais c'est vrai que, comme on est avec Hamilton, ça prend toujours des proportions, voilà.
Non. Si Weber avait fait la gueule après une pole, on serait tout autant étonné.
Oui, on serait étonné, mais est-ce qu'on commencerait à sortir que oui, il a peut-être rompu, oui, maintenant il fait partie des scientologues, donc tu comprends, hein, ça l'a fait.
Non, mais il faisait la gueule parce que voilà, parce que c'est sincèrement, c'est il l'a lui-même concédé, il a dit oui, je vais pas me satisfaire, c'est qu'une pole position, quoi, il faut gagner la course, et puis c'est pas non plus ça qui va résoudre ses problèmes. Il a dit c'est sa pire saison en carrière. Il a été le premier exclu de la course au titre. Il avait plus rien à espérer. Sincèrement, je pense que la pole position, c'est limite, il en voulait pas, quoi. Il avait l'air blasé. Bon, c'est très bien, j'ai fait une position, mais qu'est-ce qu'elle lui rapporte en plus? Rien. Parce que je sais que j'ai fait la remarque pendant le live où je me suis étonné de son comportement et qu'il y a des gens qui ont dit ouais c'est bon lâchez-lui la grappe. Je pense à Nigel qui a dit ça y est, des Hamilton vous critiquez. C'est pas critiquer, c'est juste s'inquiéter pour Hamilton. C'est pas rassurant de voir un pilote dont on sait qu'il se pose des questions et qu'il est fragile en ce moment. C'est pas le rassurant de le voir même pas profiter des petits bonheurs. C'est moi j'ai failli lui mettre un drive-through amical à Hamilton en lui disant j'aurais en face de moi je lui mettrais quelques petites claques en lui disant mais putain mais réveille-toi Lewis quoi, fais quelque chose, t'es en train d'aller droit dans le mur. Là moi j'ai sincèrement je vois un pilote qui va droit dans le mur ou en tout cas qui sait qu'il y va mais qui n'arrive pas à voir comment il peut s'en sortir.
Ouais, c'est d'autant plus étonnant parce qu'il réalise c'est l'exploit de l'année quand même. Premier à battre Red Bull en qualification.
Ouais. Puis que ouais, même voilà. Au global, on peut dire qu'il a fait un bon
week-end. Une pole. Ouais, quand tu fais une pole, t'es toujours content. À chacune de ses poles, il était content. C'est normal. Donc là, c'est vrai que c'était un peu étonnant. Voilà. Bon.
Mais voilà, mais moi, c'était.
Il a ses raisons.
Par rapport aux excès, quoi. Dès quoi là, parce que c'est Hamilton, ça prend des trucs.
Juste pour faire une parenthèse, c'était juste aussi à propos du comportement humain des pilotes. Quand on dit Barrichello, faut qu'il s'en aille et tout. Moi, je trouve Barrichello, c'est quand même un mec qui rêve de F1. Voilà, il est heureux d'être en F1 et tout. Et voilà. Il est souvent souriant, content d'être là. Il affiche une image positive. Il y a des mecs qui sont là, ils font la gueule. Bon, voilà, je veux pas critiquer Hamilton, mais voilà, il y a des priorités dans la vie. Faut se montrer heureux de son sort aussi, de temps en temps, quoi.
S'il profite pas de ces petits instants-là, il remontera jamais la pente. Faut qu'il arrive à profiter de... Voilà, c'est, il peut pas non plus attendre qu'il y ait une dynamique où il va faire trois pôles de suite, deux victoires ou trois victoires, où tout va se passer magnifiquement. Il faut qu'il déjà commence à se remettre les pieds à l'étrier en se contentant d'une petite victoire. Une petite victoire, c'est une grande victoire finalement dans sa situation actuellement.
C'était donc la 19e pole position pour Lewis Hamilton. La 147e pour McLaren, la 82e pour Mercedes, à une moyenne de 210,958 km/h. Qu'est-ce que c'est bien de ne pas dire Vettel et Red Bull au moins une fois cette saison.
Non, arrête de faire ton anti-Vettel primaire, s'il te plaît. Sincèrement,
j'aime beaucoup Vettel, mais c'est bien qu'il ne soit pas tout le temps lui, que ça change. Voilà.
Pour ma part, ça m'a un peu déçu que Red Bull loupe sa pole. Moi, je suis un peu comme ça quand tout est perdu pour les autres, que celui qui domine aille jusqu'au bout, parce que voilà, pour marquer l'histoire, moi, je voulais que Vettel soit titré dès Singapour. Je voulais que Red Bull fasse toutes les pôles cette saison pour marquer l'histoire, quoi.
Ah ouais.
Je suis bien. Donc, j'étais un peu déçu.
Une domination absolue. Parce que la saison de Vettel n'est pas parfaite. Hein, faut le dire.
Elle est nulle.
Elle est presque parfaite, mais elle n'est pas parfaite. Il y a encore une marge de progression possible. On va passer à la course.
Ceci est une alerte du service après-vente de la F1. Un animateur va émettre un drive-thru. Vous pouvez en profiter pour vous préparer un café, acheter des croissants ou encore repasser votre linge, mais vous pouvez aussi l'écouter. On sait jamais.
Oui, messieurs, je voudrais mettre un beau drive-thru à TF1, et plus globalement au groupe TF1, qui nous a quand même privé d'abord d'un Grand Prix du Japon pour nous diffuser la finale, enfin même pas nous diffuser le quart de finale Argentine-Nouvelle-Zélande, c'est-à-dire nous diffuser l'émission qui précède le quart de finale Nouvelle-Zélande-Argentine au Japon. Donc on nous a quand même privé d'un des plus beaux Grands Prix de la saison pour une émission de TF1. Pour finalement la semaine d'après, alors que le match Nouvelle-Zélande-Australie avait lieu à la même heure que la semaine dernière, que le Grand Prix avait lieu à la même heure qu'au Japon, là dire ah bah oui, on peut l'utiliser. Bon, déjà ça c'est notre premier mini drive.
Après on peut aussi se poser la question de l'intérêt de diffuser en même temps le même Grand Prix à la même heure sur TF1 et Eurosport.
D'où mon deuxième drive. Voilà. Il y a un moment où je me suis dit ça se trouve c'est parce qu'on va pas voir la fin du Grand Prix sur TF1. Bah même pas. Bah. Je me suis dit ouais bon ils ont compris.
C'était peut-être une coupable de sécurité au cas où en effet. Hein.
Oui. Bon bah j'approuve ton drive-thru dans ces cas-là, il n'y a rien à dire.
Merci.
C'est parfait.
Je pense que Shinji maintenant on peut reprendre.
On va passer la course et ça va encore être à toi parce qu'on va parler des malheureux.
Oui. Des déprimés. De ceux qui ne sont pas dans le top 10 du SAV avec des surprises.
Ouais quand même oui.
Alors, on va d'abord dire que le premier a marqué 800 points.
Oui, c'est ça, 800 points, tout pile. Oui.
Tout pile. Hein. Et donc, ça va vous donner un peu l'idée des échelles. Et sincèrement, au vu du classement, il y a clairement un top 10 et les mecs de derrière.
Oui, il y a un gros écart. Ah, oui.
Il y a un gros écart entre le 11e et le 10e. Donc, est classé en 24e position et n'a pas marqué de points, comme la semaine dernière, Vitantonio Liuzzi. D'Ambrosio est 23e avec 1 point, Trulli 22e avec 2 points, Bruno Senna 21e avec 4 points, Petrov et Ricciardo sont 19e respectivement avec 5 points, Perez, Maldonado et Glock avec 6 points sont 16e ex aequo, 15e Kamui Kobayashi 19 points, Rubens Barrichello et Paul Di Resta sont 13e avec 26 points, Adrian Sutil est 12e avec 29 points, et la belle performance de la semaine, même s'il ne sera pas dans le top 10, c'est Heikki Kovalainen qui a marqué 53 points et qui se classe en 11e position. Et c'est pas faute d'avoir tout fait pour qu'il soit dans le classement.
En effet, je dois rappeler que je lui ai mis 1 point, Dino tu lui as mis 4 points, et Bilo tu lui as aussi donné 4 points. En effet,
ah, attends, c'est mon mail.
Oui, je veux dire, c'est ton mail. On lui a tous les trois donné voilà, des quelques points. Il a quand même fini devant les Sauber.
Bah oui, c'est une performance à la régulière, quoi.
Ah oui. Voilà. Bon, c'est vrai que les Sauber sont d'abord passés totalement à côté de la plaque et ont pas été épargnés par les problèmes pendant la course, surtout Kobayashi. Mais voilà, enfin, faut être là, fallait être opportuniste, voilà, à ce moment-là. Ils ont, et même eux, enfin, ils ont dit, on a fait un super week-end, quoi. Il n'y a pas eu de problème, rien. Voilà, ils sont très contents. Ils finissent à un tour seulement. C'est peut-être pas grand-chose, mais ça veut dire
beaucoup. Ouais, c'est vrai que bon, pour Team Lotus, ils sont pas aux objectifs qui étaient donnés en début de saison. Ça, c'est vrai. Pour eux, l'idée, c'était d'être dans le rythme, voilà, de marquer des points et d'être dans le rythme. C'est vrai que ce qui fait qu'on n'a pas forcément beaucoup parlé, mais c'est quand même, c'est une très belle progression, Team Lotus. Alors certes, ils sont encore derrière.
Ce sera suivi l'an prochain, parce que l'an prochain, avec la fin du diffuseur soufflé, bon, il y aura d'autres solutions techniques, mais ça peut possiblement peut-être resserrer un peu les écarts entre ceux qui sont
à la fois loin des anciens, ils sont à la fois comme encore un peu loin des anciens, même si on voit que maintenant à la régulière, ils arrivent à en battre certaines, mais ils sont clairement au-dessus des deux autres, et c'est vraiment très intéressant à observer.
En plus, il faut rappeler, il me semble qu'ils n'ont pas de Kers.
Non, ils n'ont pas de Kers.
Mais je comprends pas pourquoi ils ont toujours pas viré Mike Gascogne. Parce que c'est la recette magique, si tu veux réussir. T'embauches Mike Gascogne et tu attends quelques temps, tu le vires.
Le problème de Mike Gascogne, c'est sa méthode. C'est que c'est quelqu'un qui travaille sur le long terme. C'est-à-dire, voilà, c'est pas un mec qui va dire, ah, j'ai la voiture, qui va tout gagner. Non. Lui, il va étape par étape et ça peut être très long.
Je crois que malheureusement pour eux, ils sont très contents de Mike Gascogne.
Oui, puis je pense aussi que c'est sincèrement c'est le genre de mec qui leur correspond bien. On avait Renault, on avait Toyota qui étaient impatients, ils avaient besoin d'avoir des résultats. Eux, ils sont beaucoup plus patients parce qu'ils savent qu'ils partent de très loin et qu'ils savent que pour le moment avoir un mec comme Gascoigne, ils auront pas mieux sur le marché et c'est l'occasion d'avoir quelqu'un qui quoi qu'il arrive fera avancer la voiture sans forcément être révolutionnaire. Hein. Gascoigne, il est pas là pour faire révolutionnaire, mais il sait faire des bonnes voitures.
Ah oui.
Alors, on va passer à la 10e place. Un pilote dont on n'a pas donné de points, hein, 3. Hein. D'ailleurs, il n'a pas fini la course. Il a marqué 143 points. Donc, comme on disait, il y avait quand même il y a vraiment un top 10 et le reste.
Les fans de Schumi sont vraiment dans la place.
Ah là, ouais, les fans sont dans la place. Bon, il a fait quoi, 13, 16 tours, je sais plus.
Alors là.
15 tours.
Ouais.
Alors, même s'il y a un truc que je comprends pas sur cette F1, c'est que Schumi il a marqué 15 tours et Petrov il a marqué 16 tours.
Parce que Schumi a abandonné dans le virage alors que Petrov est rentré au stand et donc dans son stand il était dans le tour suivant.
Il a fait 15 tours. Bon, déjà on peut dire que c'est pas de sa faute.
Oui, voilà.
Voilà. D'ailleurs, j'ai adoré comment il l'a dit. Oui, bon, là, j'étais là, j'étais dans mon virage, j'étais tranquille, le coude à la portière. Je voulais tourner à droite, et puis je sais pas pourquoi la voiture est partie soudainement à gauche. C'est presque comme ça qu'il l'a dit. Hein.
Ceci est une alerte du service après-vente de la F1. Un animateur va émettre un drive-thru. Vous pouvez en profiter pour vous préparer un café, acheter des croissants ou encore repasser votre linge, mais vous pouvez aussi l'écouter. On sait jamais.
Donc c'est un drive-thru, alors pas pour Petrov en particulier, mais pour l'ensemble de Renault. Parce que Renault, depuis un certain temps, il commence vraiment à m'énerver. Ils n'arrêtent pas, c'est une provocation, j'ai vraiment l'impression que cette équipe, elle veut vraiment faire chier le monde. Elle est en train de se saborder elle-même, voilà, il y a plusieurs décisions qu'on comprend pas. Alors déjà, bon, il vire Hetfeld pour mettre Senna. Alors ça y est, Senna, bel calife, tout le monde dit ouais, tout le monde, l'équipe n'a jamais été aussi heureuse que depuis le début de saison, etc. Là, la voiture, on voit qu'elle fonctionne plus du tout. Elle est larguée, la voiture. À Singapour, on les a vus larguer. Au Japon, ils étaient pas bons. Senna, il est depuis sa qualif de Belgique, il n'a plus rien fait. Et voilà. Et donc, et après ils disent, oh, on est très contents de nos deux pilotes. Les deux pilotes qui, ben, ont fait des choses en Corée. Pas digne d'un pilote Renault, c'est-à-dire il y en a un qui lui cause un carton. Bon, on va pas tirer sur l'ambulance, il s'est excusé, donc voilà, ça arrive. Mais voilà, il fait un carton et l'autre qui est largué tout le week-end. Et ensuite, on a Boulet qui dit ouais, de toute façon, on n'a plus rien à espérer pour cette année, et qui dit ouais, ben, Grosjean, il montera pas dans la voiture parce qu'il faut laisser le temps à nos pilotes de s'habituer à la voiture. Oui. Alors déjà, Petrov, je pense qu'il s'est habitué à la voiture depuis un bon moment. Et deuxièmement, vu qu'ils n'ont aucun objectif, je vois pas pourquoi, ça y est, on devrait laisser le temps aux pilotes. Il vaut mieux préparer l'avenir et faire piloter Grosjean aux essais pour le préparer. À un éventuel baquet pour 2012, ou que ce soit chez Renault ou ailleurs, mais pour le préparer vraiment, je trouve ça un peu idiot.
Je suis pas sûr que mettre Grosjean dans le baquet de la R31 cette année, ça soit un bon argument de vente pour l'envoyer chez une autre équipe l'année prochaine.
Non, mais en essai libre.
À part en Inde, il pourrait le mettre en essai libre. On est signé. D'ailleurs, Toro Rosso va faire pareil avec Verne. Verne ne fera pas l'Inde parce qu'il faut qu'il s'habitue au circuit. Juste deux choses. D'abord, un, sur l'année en général. C'est vrai qu'on a l'impression quand même que l'autre Renault cette année, c'est une succession, alors, de pas de bol, quand même le dire, et de mauvaises décisions. Une espèce de mélange. Bon, le
technique
système
est directionnel, voilà. Hein, voilà,
voilà.
Bah, c'est un ensemble de mauvais choix, quoi.
Après, c'est toujours compliqué. Ils ont voulu essayer de faire quelque chose. C'est toujours le même problème. Voilà, ils ont testé quelque chose avec les échappements et tout ça. Ça n'a pas très bien marché au final. C'est toujours compliqué parce qu'on se dit, il faut quand même les féliciter d'avoir essayé de faire quelque chose.
Mais c'est un peu le problème qu'on a parfois en course quand un mec tente une stratégie et que voilà, c'est soit c'est la stratégie est payante et c'est premier des héros, soit elle paye pas et c'est premier des zéros. Là, faut quand même se rappeler qu'en début de saison, c'est l'attraction de la saison, la Lotus, que voilà, leur concept marche bien et tout, et que tout le monde dit waouh, ouais, c'est super ce qu'ils ont fait, compagnie. Tout le monde s'est enthousiasmé, nous les premiers, hein, voilà, nous aussi moi j'étais pas forcément un grand fervent de Lotus, j'étais plutôt pour l'autre Lotus parce que j'aimais pas la démarche du groupe Lotus. Maintenant, c'est vrai que le risque qu'ils ont pris n'a pas payé finalement, et qu'aujourd'hui, on a un peu la mémoire courte et on le rappelle. C'est un peu comme Hamilton, quoi. On aime bien leur taper dessus. On oublie quand même qu'on les a salués et qu'on les a applaudis en début de saison pour leur audace, pour leur génie technique. Et maintenant, on les traite de nuls. Enfin, c'est pas toi, hein. C'est en général dans la presse. Hein,
J'espère bien. C'est pas niveau technique que je critique. Ça, c'est pas ça. C'est juste niveau directionnel. Voilà. C'est une équipe qui peut faire des belles choses, mais qui là, avec un tel comportement directionnel, ne peut pas aller bien loin. Preuve en est aussi quand Boulier dit je vais laisser du temps à Kubica et tout. Enfin, faudrait pas trop tarder, parce que l'accident qu'il a eu, Kubica, c'est très très sévère. Olivier Panis l'avait dit il y a quelques temps qu'il ne croyait pas du tout à un retour Kubica en 2012. C'est vrai qu'il a eu un accident très sérieux, le garçon. Il peut reprendre le volant d'une F1. Maintenant, est-ce qu'il veut être aussi rapide qu'avant son accident? C'est pas forcément sûr. Il faut vraiment préparer le terrain pour 2012, quoi.
Ça fait un peu penser à, si vous vous rappelez, en 2008, aux critiques qu'on a faites à Ferrari, qui nous a offert vraiment, c'était un chef-d'œuvre de faire revenir Badoer, etc., avec des décisions d'équipe, alors qu'ils avaient perdu Massa, qui était à ce moment-là un peu le leader. Quand je les vois prendre des décisions, j'ai l'impression de voir quelqu'un en train de se noyer. Tu vois, ils sont en train de se noyer, ils bougent les bras, ils font beaucoup de bruit, ils vont dans tous les sens, ils font tout ce qu'il faut faire pour se noyer. C'est là aussi où on voit la force, par exemple, de Red Bull. Red Bull en ce moment tout marche bien pour eux, etc. Mais il suffirait juste d'un petit grain de sable pour que ça parte en couille. Hamilton c'est pareil, c'est un pilote qui a pas de raison de faire la gueule en faisant une pole position, et pourtant il suffit d'un tout petit truc, d'une petite succession d'événements, d'un petit coup de moins bien pour que tout d'un coup la spirale négative se mette en route. Et là je pense que c'est ce qui arrive exactement sur le management. C'est là où c'est grave. Je pense que il y en a un qui en prend plein de la figure, c'est Boulier, parce que Boulier qui était quasiment le sauveur de Renault, qui était qui a quasiment l'homme de demain en Formule 1, effectivement, on se rend compte aujourd'hui que c'est pas forcément un aussi bon manager que ça, qui fait que face à une situation compliquée, il n'est pas nécessairement l'homme de la situation.
Alors que c'est la 9e place, il a marqué 154 points, je lui ai donné 2 points, Dino tu lui as donné 1 point, Bilo tu lui as donné 1 point aussi, c'est Buemi. Alors moi Buemi je l'ai mis au classement, je vous le dis tout de suite.
Moi c'est pareil.
Ouais, moi aussi.
Donc en fait, finalement, c'était... Non mais ce qui est drôle c'est qu'on a dit qu'il y avait un top 10 qui se détachait, mais en fait même dans le top 10, il y en a certains qui se détachent plus que d'autres. Allez, à la 8e place, Nico Rosberg, 190 points, 2 points par Bilo. Je lui ai mis 4 points, et Dino, tu lui as donné 2 points. Moi, c'est pareil. Tout ça, c'est du fond de classement.
Rosberg, il a un petit peu existé en course que grâce à la vitesse de pointe de la Mercedes, où il est resté devant les Ferrari. Voilà, c'est son fait d'arme de la course. Maintenant, sur la course, il est pourri sur la fin avec ses pneus. Voilà, bon, c'est...
Il fait quand même un excellent début de course, quoi. Il tient le rythme des leaders en début de course, quand même.
Oui, mais avec une grosse vitesse de pointe avec le DRS, ça te permet de survivre. Voilà, sur la fin, ce qui paye clairement, c'est sur la stratégie de pneus où à la fin il finit avec des pneus qui n'en peuvent plus. C'est-à-dire c'est comme ça que Kovalainen, mais que Aguilar a fait des places.
Voilà, ces pneus à Rosberg, ils ont 28 tours, je crois. C'est à la course, il s'est plus arrêté.
Donc c'est Non mais vas-y.
Ah, merci. Non, mais ce que je veux dire, c'est oui, il y a le DRS, mais c'est jamais arrivé cette saison qu'une Mercedes tienne le rythme comme ça en début de course. Là, il était juste derrière, quoi.
Mais c'est pas une question de rythme, c'est une question de vitesse de pointe. C'est-à-dire que c'est avec une très bonne vitesse de pointe, c'était criant ce qu'à dire qu'avec les trois, le premier secteur qui est composé de trois lignes droites, on voyait bien les écuries qui étaient devant, qui faisaient un premier secteur raisonnable, mais par contre ils faisaient un deuxième et un troisième secteur très très bon. Bah Mercedes, un peu à l'image de ce qu'avait fait, je crois, Ferrari en Turquie, ou ce qu'a fait même Michael Schumacher en Italie, ils mettent une grosse vitesse de pointe en se disant voilà, au moins on va essayer de rester devant au DRS parce que les opportunités de dépassement sont pas énormes, ou alors que vraiment c'est la zone DRS en Italie, le mec qui restait avec une grosse vitesse de pointe devant dans la ligne droite DRS, il n'était pas inquiété de restant du tour, ou quasiment pas.
Ouais. Mais je veux dire par là que c'est quand même, il me semble que c'est la première fois de l'année où une Mercedes met la pression carrément au top team. Bon, je trouve qu'on a plus vu que d'habitude.
Dans ce cas là on va passer à la 7ème place, et il faut dire que je lui ai donné 6 points. Bilo, tu lui as donné 8 points, mais Dino, tu lui as carrément donné 12 points.
Qui est-ce?
C'est Rémé.
Ah bah oui.
J'aime ça.
Sérieux, oui.
Ah, j'aime ça. J'ai hésité à mettre 4e, mais je me suis dit, ça y est, on va me dire que je suis Dino, donc on va rester dans les règles. Donc voilà, je l'ai mis 6e.
Mais c'est une énigme, Aguilar Suari, parce qu'il a le don de nous surprendre en course. Voilà, il fait une splendide course.
Ah, très belle course.
En plus, tout le monde était sur la même stratégie. Donc, c'est vraiment un truc que j'aimerais voir, c'est qu'on arrête le vendredi. Voilà, on retourne aux essais, d'intersaison, on refait des séances, et on arrête le vendredi. on emmène les voitures. À la limite, on leur fait faire un petit check-up le vendredi soir pour qu'ils choisissent quelque truc, une petite séance d'une heure. Là. Et surtout, on leur fait faire le moins d'essais. On l'a vu ce week-end, comme ils n'ont pas beaucoup appris vendredi. Du coup, en course, on a eu des surprises. On a eu des voitures qui étaient rapides en qualification, mais en fait, on s'est rendu compte que en condition de course, elles étaient bien meilleures. Voilà, tout. Il y avait un petit suspense. Moi, c'est ce qui m'a plu dans cette course. Il y avait un petit suspense. Et du coup, ça a resserré les écarts. Ça a rendu la performance d'Aguilar Suari franchement très impressionnante. Mais il a quand même le don de nous impressionner, et quand même avant de nous décevoir à un point extrême, puisqu'il a quand même pendant les essais libres bloqué à deux reprises sur un tour rapide Sébastien Vettel. Premier, il l'a bloqué, on va dire qu'il l'a bloqué plus parce qu'il était devant et qu'il n'a pas forcément fait gaffe et qu'il était dans un deuxième tour rapide. Dans son deuxième tour, il défend quand même chèrement sa place, alors que derrière il a quand même...
Est-ce que c'est pas suite à ça d'ailleurs qu'il y a eu une énorme engueulade avec Helmut Marko?
Oui, voilà, ouais. Marko qui a déboulé, et voilà.
Trouvez-moi une garçonnerie.
Ce qui est terrible, c'est que alors qu'on sent qu'Aguilar Suari sur la piste prend le dessus sur Buemi, et sincèrement, Aguilar Suari, il progresse depuis.
Il est dans une pente ascendante quand même.
Voilà, sur l'ensemble, même depuis le début de sa carrière, il est sur une pente ascendante. Mm. Déjà l'an dernier, ça se rééquilibrait un peu avec Buemi. Donc voilà. Mais en même temps, avec son caractère, il fait tout pour se faire virer de chez Red Bull, quoi. C'est pas possible.
C'est Aguilar Suari qui a eu ce truc là avec Rosberg à la sortie des stands.
Oui, c'est lui, il sortait des stands et Rosberg lui est rentré dedans.
super mal foutue, cette sortie des stands, mais elle est horrible. Je sais pas pourquoi, comment ils...
Alors,
ils ont pas changé, quoi.
Sincèrement, il suffisait juste de la prolonger dans la partie bitumée. Au moins, ça limitait.
Ah oui, voilà.
Voilà. Tu changeais la ligne, tu refaisais une ligne, ça prenait juste la nuit à faire. Voilà. Et là, sincèrement, ils ont pas du tout réagi, quoi. Mais ce circuit, c'est n'importe quoi.
C'est bien, il y a des petites frictions. C'est bien.
Oui, on s'est même fait peur pendant la course à Alonso et Schumacher.
Alors, en plus, ils avaient eu une petite quille, mais vraiment, vraiment juste derrière le muret. Donc, c'était vraiment, la petite quille qu'ils doivent pas toucher. Donc, parce que la sortie fait quand même le virage, entre guillemets. Donc, t'as un trait. Et c'est vrai que plusieurs fois, sur le coup, je crois que c'est aussi quand Button est sorti, je me suis dit, merde, il a coupé la ligne, c'est sûr, il va se prendre une pénalité, mais apparemment, non. L'important, c'est qu'il ne touche pas la quille.
C'est vrai que dans le jeu, c'est mieux fait. Il y a un muret de béton et il commence à sortir dans la ligne droite, dans la grande ligne droite.
Mais c'est ça qui est dingue, c'est que ça n'a même pas été repensé. Quand tu penses qu'ils ont repensé l'entrée des stands, sincèrement, elle est tout aussi pourrie, sauf que voilà, ils ont reculé le mur d'un mètre. Alors que, comme le disait Lafitte pour les essais, pourquoi est-ce que, vu que visiblement la marina verra pas le jour, pourquoi est-ce qu'ils ont pas fait l'entrée des stands avant même la grande courbe, que les pilotes rentrent de l'autre côté du mur, voilà, et ça permettait à la limite même d'aller tout droit. Mais je vais regarder sur F1 2011 comment ils sont les garages.
Ah oui, t'as F1 2011.
Oui, je sais.
Toi qui a dit « Oh non, je n'achèterai pas F1 2011, je m'en fous la mauvaise foi. »
Sinon, vous avez quelque chose à rajouter sur Alex Soary ?
Ah oui, on parlait d'Edgar Soary, c'est
vrai. Oui, c'est vrai. Non ?
Excellente course. Tout le week-end devant Buemi, très belle qualif. Voilà, c'est excellente stratégie, décalé. En fait, il est parti avec des pneus tendres neufs. Je me souviens plus du graphique que tu as fait pour...
C'est pareil, moi je l'ai fait, mais je m'en rappelle plus.
Et voilà, donc, et très rapide aussi, dans le coup, quoi. Voilà.
Allez, on va passer dans ce cas-là à la sixième place. Il a marqué 340 points. C'est Button, qui, pour une fois, n'est plus sur le podium.
Ça faisait 6 fois de suite. Et qu'en même temps, Hamilton n'avait jamais été sur le podium sur cette série-là.
Voilà. Il n'a pas été aidé par... Je crois que c'est lui qui n'a pas été aidé par son arrêt au stand. C'est lui qui s'est retrouvé coincé...
C'est Massa.
C'est Massa ?
Ouais.
Alors, la course de Button.
Bon, je pense avoir été un peu injuste avec lui... Je l'ai mis 7e, mais c'est vrai qu'on a depuis la Hongrie, on a tellement été habitué à ce qu'il fasse des courses de folie que finalement cette 4e place, alors qu'il termine à 2 secondes de la 2e place, elle paraît un peu fade. Mais et après, je me suis rendu compte que finalement, par rapport à ceux que j'ai mis devant, il méritait cette 7e place parce qu'il n'a pas été flamboyant, quoi. Il loupe son départ.
Il y a ce mystère 10% d'appui quand même. Apparemment, ça aurait touché les deux voitures. Parce que c'est vrai qu'après les qualifs, on s'attendait quand même à avoir des McLaren très dominatrices. Et donc ils ont dit que... Enfin, ils l'avaient constaté, mais qu'ils comprennent pas pourquoi les voitures ont perdu 10% d'appui.
Ah, je n'ai pas vu.
Sincèrement, au début, j'y ai cru. Au début, premier relais, je fais « Ah putain, il va nous le refaire. » Je fais « Ce mec est incroyable, il va nous le refaire. » Et puis, le soufflet est retombé dès le deuxième relais. Mm. Et là, je l'ai plus vu, Button. Voilà. Après, il s'est retrouvé dans la situation qui était franchement... La zone DRS à cet endroit-là, avec des grosses vitesses de pointe, c'était franchement, ça servait à rien, quoi. Les mecs se suivaient avec la vitesse de pointe et avec le DRS, donc chacun avec le DRS. Du coup, il y avait personne qui se dépassait. Voilà, c'était du coup pas forcément très intéressant.
C'était quand même une bonne course. Voilà, c'est son départ lui foire sa course. Parce que je pense qu'il terminait deuxième s'il ne foirait pas son départ ou son premier virage, quoi. Il a été un peu tendre, je trouve, dans le premier tour, parce qu'il se fait un peu dépasser comme ça, sans trop se défendre.
Oh, quoique, quand même, le retour dans la ligne stand, la deuxième ligne de stand, où il repasse légèrement devant Weber, il se glisse entre Weber et Massa, et c'est quand même un moment où, quand j'ai vu le ralenti, je fais « Ouh, qu'est-ce qu'il nous fait, la Button ?»
Ouais, mais ça, il le fait trop tard. Les moments décisifs, c'est vraiment les tout premiers... toute première seconde.
Bah, le problème c'est que s'il s'élance mal vu que la ligne est assez courte, s'il s'élance mal ou s'il rate un tout petit peu son départ ou si les autres derrière font un meilleur départ que lui, tout de suite il est sous les tailles noires, quoi.
Ouais.
D'ailleurs, comme on parle du départ, moi c'est sincèrement, s'il y a un truc pour lequel le Grand Prix de Corée vaut quelque chose, c'est bien le départ.
Ah oui.
Parce que là on a quand même un départ qui se déroule sur 3 lignes droites, c'était très sympa à regarder.
Ouais. C'est vrai que c'est une excellente idée de mettre les lignes droites au début du circuit, parce que comme ça, lors des départs, c'est très intéressant. Et c'est l'an dernier, je l'attendais vraiment, et pas de beau safety car. Donc.
C'est aussi intéressant en matière de réglage, parce que ça oblige à un compromis entre un premier secteur qui est du coup très rapide et qui a pas forcément besoin beaucoup d'appui, et par contre les deux autres secteurs où là si t'as pas d'appui c'était mort. Donc voilà, c'est, mais du coup même pour le DRS j'arrivais pas à voir, je trouve que là la zone DRS était pas top, j'arrivais pas non plus à voir où pouvait la mettre ailleurs, quoi, parce que c'était impossible de la mettre dans la première ligne droite, parce que sincèrement avec la sortie des stands
ils ont limité quand même la longueur de la zone.
Bah oui, non, mais c'est le mieux à la limite pour moi, ça aurait été de le mettre dans la dernière ligne droite juste avant l'épingle, ensuite d'autant que derrière il y avait une partie assez roulante, mais enfin assez tortueuse pour pouvoir se battre côte à côte comme on fait d'ailleurs Weber et Hamilton. Mais après c'est le problème, c'est de savoir le point de détection. Si tu fais le point de détection au bout de la ligne droite, c'est pas garanti qu'il y ait une seconde d'écart avec des mecs qui mettraient une vitesse de pointe de malade pour justement que les autres derrière soient largués, quoi. C'est le vrai problème du DRS, c'est que le choix de la zone est très complexe et ça varie d'un circuit à l'autre.
Mais c'était une année d'essai, donc voilà, ils vont se rendre compte quels sont les grands prix où il faut rallonger la zone, qui sont les grands prix, il faut écourter la zone.
On a quand même vu sur ces dernières courses, sur la deuxième partie de saison, sincèrement, le DRS a été beaucoup moins efficace.
Oui.
On n'atteint plus les scores de dépassement qu'on avait en début de saison. La moyenne a vraiment chuté. Parce que tout simplement, je pense que les écuries se sont adaptées, qu'il y a eu plusieurs solutions. Mettre une grosse vitesse de pointe pour justement compenser et se mettre à l'abri d'une attaque du DRS. Puis les mecs ont appris aussi à gérer par rapport au KERS, à utiliser le KERS. Je crois que pendant la course, à un moment donné, on a dit à Hamilton, tiens, utilise pas le KERS là, mais utilise là. T'es à l'abri dans la ligne droite, autant que tu derrière pour ménager un peu de trucs. Voilà, c'est les mecs ont trouvé des solutions pour éviter d'être trop victime du DRS, ce qui fait que le DRS est un peu moins efficace. Moi, je m'en plains pas, au contraire, hein, c'est très bien. Moi, je reprochais au DRS d'être trop efficace. Là, il est un peu moins efficace. Faut quand même que les mecs se bougent pour aller chercher les dépassements. Voilà, donc c'est faut juste réussir à trouver l'équilibre sur l'ensemble de la saison pour que ce soit pareil partout et qu'on n'ait pas des festivals de dépassements interlarigaux comme en Turquie ou en Chine.
Le fait aussi que les pneus Pirelli sont mieux compris.
Oui aussi, oui.
Bah, c'est d'ailleurs ce qu'a dit Pirelli il y a pas longtemps. Hein. Pirelli l'a dit, chaque saison, il va falloir qu'on se réinvente parce que les écuries apprennent très vite et que les pneus qu'on a fait cette année, l'année prochaine, ils seront moins originaux, ils vont apporter moins de spectacle parce que les écuries se seront adaptées, parce qu'ils auront conçu leur voiture en les connaissant maintenant très bien et que voilà, ça sera totalement différent.
Allez, on va passer à la cinquième place avec un pilote Ferrari.
Oh oui.
Et c'est Bilot qui va être content.
C'est vrai?
Ah bah oui, puisque tu l'as quand même mis sur ton podium, tu l'as mis troisième.
Ah mais merde, ben non, je suis pas content, merde.
Alors que bon, c'est vrai que moi je ne lui ai entre guillemets que donné 10 points et Dino ne lui a donné entre guillemets que 8 points et au global... Vous lui avez donné 366 points, c'est Philippe Pau.
Ayez pitié, merde, il ressort d'un accident.
Oh.
Massa, pilote brésilien du 19e siècle.
Oh, attends là.
Oui, du 19e siècle, parce qu'il est bionique, Massa. Il est revenu du passé pour nous hanter. Le zombie de Maranello. Non, je charge la mule pour que Bilou puisse quand même bien le défendre. Voilà, je vais sortir tous les trucs qu'on peut sortir dégueulasse sur Massa. Comme ça, après Bilou pourra le défendre et sortir vainqueur.
Mais il est gentil, Massa.
Massa, la chèvre. Bon, si Monsieur Seguin avait eu deux chèvres, la deuxième serait Felipe et Massa.
Contrôle-toi.
J'ai cru qu'il avait un orgasme à cause de ma plaque.
Non mais non.
Sincèrement, tu réécouteras, c'était bizarre, Bilo.
Ah bon, merci.
T'as le droit de faire l'amour avec le bureau, mais bon, quand même.
Ah, ça c'est bon.
Putain, il m'a tué.
Ah, vas-y, défends-le, ton Massa.
Ah oui, Massa, il se qualifie devant Alonso.
Oui, mais c'est parce qu'Alonso le laisse passer.
Oui, c'est bon.
Oh, non, arrête.
Arrête ton argument de merde. Pour quatrième fois en six courses, donc il y a de réels progrès du côté de Felipe. Il fait une superbe course. Non, il tient le rythme. Alonso lui-même a déclaré, et ça m'a un peu énervé dans les commentaires de gens qui disaient, ouais, ça y est, il faut que...
Faut
qu'Alonso ait passé. Oui, pardon.
C'est vrai qu'à un moment dans la course, ils ont été l'un derrière l'autre et en compète.
Ouais.
Voilà. Non, mais ils ont joué une place. Non, mais on parle des deux pilotes Ferrari, les gars.
Bah oui, en même temps, il n'y a plus trop d'espoir de titre.
Oui, oui, non, mais quand même.
On n'a jamais eu.
Aussi.
Oh, cette année, quand même. Ouais, il y en a.
Premier grand prix. Il y en a eu en Australie, puis après, ça
voilà, c'est ça.
Ouais, voilà.
Mais ça y est, du coup, vous me. Ah oui, Oui, donc ça m'a un peu énervé.
On retrouve ses arguments. Pas, nous allons vous passer une petite musique d'attente.
Non, mais ça m'a un peu énervé.
Bilo cherche des arguments.
Oui, donc putain, mais arrêtez de me couper, merde, je sais
bon, plus. On t'a pas coupé là, Bilo. Sincèrement, là, t'es de mauvaise foi. Là, on a rien dit. T'as laissé sombrer, c'est tout.
Non, oui, ça m'a énervé quand il y a des gens qui disaient, ouais, une fois que Alonso était passé, il lui a collé un vent. Non, non, non. C'est juste que Massa était découragé complètement et qu'il voyait plus d'intérêt. Maintenant, Alonso lui-même l'a dit, quand il était derrière Massa, il pouvait pas l'attaquer parce que il était pas plus rapide. Et Massa, moi, je trouve qu'il a fait une super course. Il a été agressif, je trouve, pour une fois. Alors, son départ a été moyen, et pour une fois, son premier virage, par contre, a été très bon. Parce qu'on remarque que souvent, Massa, il prend des bons départs, mais il foire ses premiers virages, c'est-à-dire qu'il est trop tendre, trop soumis quand il y a face aux autres. Alors que là, au premier virage, il a doublé deux pilotes, je crois, il a joué des muscles, il a doublé Button au deuxième virage, il a fait vraiment des belles choses. Et moi, je tenais à le récompenser, parce que encore une fois, la poisse vient s'en mêle. Avec cet arrêt au stand plus long, alors je suis les mécanos qui, je sais pas s'ils ont fait exprès ou pas, mais
non, en fait il a été bloqué parce que Schumacher entre au même moment avec les stands et il est resté bloqué en fait dans la ligne, voilà.
Et je suis pas sûr que ce soit ça, j'ai lu ton commentaire, mais justement j'ai
lui c'est ce qu'il a dit dans les déclarations de Ferrari.
Ouais, enfin Ferrari lui a demandé de ne pas critiquer les mécanos aussi peut-être. Parce que Schumacher, il était quand même 10-15 secondes derrière Massa au moment des ravitaillements, donc je pense pas qu'il...
Mais en fait, au moment où Massa va sortir, Schumacher rentre. Donc en fait, ils ont retenu pour éviter qu'il le tape.
Ouais. Bon, ça l'a laissé... Il est resté devant Alonso, ce qui prouve quand même qu'il a été plutôt bon, mais ça lui a un peu foiré sa course, parce qu'il aurait pu repartir devant le duo Button-Rosberg, qui du coup sont passés devant lui, alors qu'ils étaient en train de se battre l'un contre l'autre, et moi je me disais, c'est bon, ils vont rester derrière les deux pilotes Ferrari, et Massa aurait pu se retrouver quatrième, manque de pause, c'est pas ça, il était 6 secondes devant Alonso au moment où il y a le safety car, donc il y avait quand même un petit espoir de rester devant à la fin des seconds arrêts, et voilà, et après, coincé derrière Rosberg, et bon, voilà, et fin de course, bon, Ferrari a fait arrêter Massa à un moment donné, on n'a pas trop compris, ils l'ont fait repartir pile dans le peloton, alors qu'ils ont quand même sur leurs écrans une idée précise de où est-ce qu'il va repartir. Voilà, ça m'a un peu énervé que Ferrari, que ce soit fait exprès ou pas, je m'en fous. Cette année, il montre vraiment quand même de belles choses dans cette fin de saison et il n'est pas récompensé de ses efforts. Et voilà, c'est une petite manque de réussite. Voilà, et donc je voulais le restituer. Voilà, et puis il a quand même été devant son coéquipier, ce qui n'a pas le cas de Button et de Weber durant ce week-end.
Oui, enfin Button et Weber, enfin non, ça, Button. Pourquoi je dis Weber moi? Button, il a quand même été devant son coéquipier quelque temps. Hein.
Oui, mais
pas aujourd'hui.
Mais aujourd'hui non. Donc voilà.
Pas passé d'ailleurs à la 4e place.
Mais vous parlez pas de Massa.
Maintenant, c'est comme ça, on pourra le défendre. Moi, en tout cas, je pourrais le défendre avec le suivant, je pense.
Puisque le suivant, son coéquipier, il a marqué 505 points. Je lui ai donné 12 points. Non, je lui ai donné. Moi aussi, je l'ai mis derrière Massa. Dino, tu lui as mis 10 points.
Mais c'est l'inverse de Button. C'est-à-dire que Button, il a fait 15 premiers tours très bons, puis le reste, on l'a pas vu. Et Alonso, il a fait calculé, 40 premiers tours pas bons, enfin moyen. Et il a fait 15 derniers tours de folie.
Pas mal.
En sachant que, pour relativiser un peu la performance d'Alonso, faut d'abord dire que quand il était derrière Massa, il y a toujours le même phénomène qui avait lieu, qu'on avait pu voir sur plusieurs Grands Prix, c'est-à-dire que dès qu'il y a plusieurs voitures qui se suivent, l'effet DRS fait que elles se lâchent pas, mais elles ont beaucoup de mal à se dépasser. Surtout que apparemment il y avait beaucoup de marbles, ce qui fait que passer leur trajectoire, ça ralentissait énormément la voiture, donc c'était beaucoup plus difficile. D'ailleurs, Massa a pas réussi à se défaire de Button. C'est Button au début, je crois qu'il est derrière Button, et après il est derrière Rosberg. Voilà, encore Rosberg avec sa vitesse de pointe à rallonge. Voilà, Alonso il restait derrière parce que tout simplement il pouvait pas dépasser, c'était pas possible. Dans la partie sinueuse, il y a pas d'opportunité de dépassement. Dans les lignes droites, c'était très difficile. Il a bien tenté parfois, mais il pouvait pas faire plus. Donc voilà, il a fait un début de course pas très incisif. La deuxième partie, par contre, il s'est retrouvé tout seul avec la voie libre. Sauf que devant lui, ce qui fait qu'il a fait meilleur tour sur meilleur tour, c'est que devant lui, il y avait un Vettel qui clairement a géré, hein, comme il l'a montré dans le dernier tour. Et puis derrière, il y avait des mecs qui eux étaient à la lutte ensemble. Et donc finalement, lui tout seul, il allait quasiment plus vite qu'eux, qui se gênaient et qui arrivaient pas à se dépasser ou à faire la différence. Voilà, moi sincèrement, j'ai hésité entre Massa et Alonso, puis j'ai mis Alonso devant parce que il a montré un peu plus de panache sur la fin, là où Massa effectivement, elle s'est peut-être un petit peu découragée.
Bah oui, qu'au moral.
Ouais. Bah d'ailleurs, on l'a entendu à un moment. Il a dit, oui, j'abandonne. Bon, il restait plus grand nombre de tours, mais c'est rare d'entendre ces mots dans la bouche d'Alonso.
Ouais, bah, il a expliqué après, il a dit, voilà, j'ai demandé à la radio, écoutez les gars, combien il reste de tours, et quel est l'écart. Puis quand ils lui ont dit, bon, écoutez, c'est bon, c'est terminé, j'abandonne, ça sert à rien
de dire, quoi. Mais j'y avais pensé, et maintenant qu'il a pensé un peu comme moi, que ça pouvait être du bluff, c'est-à-dire à Button, Alonso est moins chaud, la porte doublée, comme ça Button se méfie moins. Et Alonso peut le surprendre.
Ouais.
C'est pas con.
Ouais, enfin, ça surestime Alonso quand même.
Il a aussi fait un peu d'humour en, tu sais, en disant, ah mais ça se trouve, il parle pas de la course. Si on genre dit en course, oui Fernando, tu as réussi à enregistrer le dernier épisode d'Undo Stress? Ah non non, c'est tout est marqué en coréen, j'abandonne. C'est un peu ce genre de truc, tu vois. On va donc passer au podium, qui va encore bien sentir le taureau rouge.
C'est chiant, il y a pas de suspense là.
Oh, 3. Méfie-toi.
En troisième, Bilot, tu l'as mis quatrième, tu lui as donc donné 12 points. Je lui ai donné 15. Dino lui a donné 15.
Merde.
Ah oui.
Et c'est au global, nous allons lui donner 15 points.
Oui, c'est une Red Bull. Et pourtant, ça n'est pas Vettel. Weber, avec 513 points. Comme quoi, ça s'est pas joué à grand chose.
Ouais, pour même vous dire, pour avoir vu le classement en direct, à un moment donné, Alonso était deuxième.
Oui.
Et quand j'ai vu le classement, je fais, non, sérieux, c'est exagéré quand même.
Weber, qui n'a pas raté son départ.
Ouais.
Bah c'est pour ça que j'ai mis troisième.
Voilà.
Mine de rien, il s'est quand même retrouvé cinquième après le deuxième virage, alors qu'il partait quatrième. C'est après il a redoublé Massa, mais.
Oui, mais il part quatrième du côté sale.
Ouais,
le mec il s'est trouvé des excuses.
Oui, c'est vrai. Oui, ne tapons. Oui, c'est. Oui, mais bon.
J'adore la profondeur des arguments de Bilot.
On passe à la deuxième place.
C'est la folie pour Weber. Hein.
Non, mais sincèrement, il fait une super course, Weber. Sincèrement.
Ouais.
C'est le Weber qu'on aime bien voir, quoi. Il a été incisif, il a tout essayé sur Hamilton. Voilà.
Le duel avec Hamilton a été très plaisant à voir. C'était beau.
Ouais. Et bien, puisqu'on parle d'Hamilton, parlons d'Hamilton.
Non. Tu veux dire qu'Hamilton serait deuxième?
Oh, j'avais dit qu'il n'y avait pas de suspense.
Il est dans une place qui est située à peu près entre la première et la troisième place. On l'appelle, en règle générale, assez couramment la deuxième place.
C'était finement pensé. Bien déduit.
Ah, mais Shinji a fait un doc de maths.
Dino l'a mis deuxième. Bilot l'a mis deuxième.
Alors, Bilot, là, faut que tu nous expliques.
Pourquoi?
Avec 550. Bah,
tu l'as mis deuxième, Bilot. Pourquoi?
C'est pas moi, hein, l'anti-Hamilton.
Je suis pas anti-Hamilton.
Mais non, mais tu dis ça comme si j'étais un anti-Hamilton qui ne le mettait jamais dans mon classement. C'est pas vrai. Je le mets.
Non, de temps en temps, quand j'y pense.
C'est pas vrai.
Oh.
Non, Hamilton, je le mets souvent. Sauf quand il me fait chier. C'est-à-dire souvent. Mais.
Hamilton, j'ai envie de dire, il fait un bon départ, mais pas un bon premier tour.
Vraiment, sincèrement, ce week-end, c'était très dur de dépasser. Et voilà, s'il reste devant dans ce premier virage, dans ce virage numéro 1, 2, 3, 4, s'il reste devant à cet endroit-là, il peut espérer gagner. Sauf que au moment où il part, bah, c'est fini.
C'est un pied de nez quand même au destin. Les gens étaient tout contents. Ouais, Hamilton en pôle, le Grand Prix va être passionnant. Vettel ne va pas s'en aller. Et ben bon, Vettel passe quand même.
Voilà. L'autre pied de nez, c'est que lui était pas content de faire la pole, mais avait l'air content de sa deuxième place.
Ouais, il est bizarre. Hein. Non, mais excellente course quand même, mine de rien. Belle résistance face à Weber. Alors que voilà, il était un peu en difficulté, mais excellente résistance, propre. Voilà, faut le signaler, il a été très performant.
On peut d'ailleurs en profiter pour saluer tout le travail de développement qui a été fourni par McLaren, hein, qui a réussi en une semaine à résoudre le problème de rétroviseur de Lewis Hamilton.
Oui, ça va mieux.
Oui, ouais. Je ne lâcherai rien, Shinji.
Quoique, ils l'ont pas tant résolu que ça, hein, parce que Hamilton, il l'a pas vu Vettel passer devant. Hein.
C'est vrai
oui,
que
ça c'est une habitude, personne ne voit Vettel cette année.
Oui.
Oui.
Et donc là encore, McLaren a dit, ah non mais il a perdu 10% d'appui. Ils savent pas ce que c'est, mais voilà, ils ont perdu 10% d'appui.
Il mériterait un drive-thru, c'est McLaren, parce que toujours.
Ce qui est clair, c'est qu'en course, la McLaren, elle était pas au niveau de ce qu'ils ont montré lors des essais et des qualifications. Il y a un très bon choix stratégique aussi de Red Bull qui a très vite chaussé les pneus tendres. Voilà, c'était mieux niveau tenue, ça a fait la différence.
Ouais. Bon, en début de course, il tenait quand même le rythme, Hamilton. Et puis, c'est vrai que quand il a dû se bagarrer avec Weber, déjà, ça l'a éloigné de Vettel un peu quand même.
Mais ce qui était étonnant, c'est qu'il s'est effondré d'un coup. Il maintenait l'écart pendant 6-7 tours. Puis d'un coup, alors qu'il perdait quoi, 1 ou 2 dixièmes par tour, d'un coup, il se met à perdre 3, 4, 5 dixièmes. Donc c'est vraiment un problème de... Là, je pense pas que ce soit un problème d'appui, c'est un problème de pneus, tout simplement. C'est que malheureusement, là où la voiture était bonne en qualification, où elle était efficace tout de suite, bah sur les longs relais, la voiture ne tenait pas aussi bien. Voilà, donc
et puis c'est Hamilton, on dit, on n'est pas le conome, hein.
Oui, et puis je pense aussi qu'il faut saluer le travail de Red Bull qui a énormément travaillé pour la course. Voilà, c'est une écurie, t'as l'impression qu'à chaque fois qu'ils arrivent, ils savent ce qu'il va se passer et ils se préparent pour ce qui va se passer. T'as l'impression qu'ils ont atteint un tel niveau de perfectionnement que vraiment t'as cette impression incroyable que quand ils arrivent le jeudi sur le Grand Prix, ils savent déjà comment faire pour gagner la course.
Allez, on va passer au vainqueur de la course. Je sens qu'encore une fois, on va s'étendre des heures et des heures sur lui. Vettel, bon bah je l'ai mis premier, Dino l'a mis premier, Bino l'a mis premier, vous l'avez mis premier, vous lui avez donné 800 points.
Est-ce qu'il a un grand chelem?
Grand chelem, c'est-à-dire? Tout le monde a mis 25 points.
Ah,
ouais. Ce qui est possible mathématiquement?
C'est possible, maintenant on peut pas savoir.
On sait pas
combien de personnes votent, donc on peut pas le savoir. Mais effectivement, mathématiquement, c'est tout à fait possible. Ça voudrait dire qu'il y aurait 32 personnes qui auraient voté pour lui.
Sinon, bah déjà, super bon tour.
Et super dernier tour aussi.
Ah ouais.
Oui.
Il le dit, hein. Il a dit à la radio, les gars m'ont dit, non, mais t'as pas fait le meilleur tour. Puis après, ils ont dû regarder le classement, ils ont dit, putain, t'as fait le meilleur tour.
Idiot, ils l'ont dit, idiot.
Il fallait que tu le fasses. Et lui dit, ouais, je sais, j'étais stupide, c'était un péché d'orgueil. Mais voilà, je voulais le faire, je le sentais bien. Oui, t'as juste voulu écraser les autres, leur rappeler que tu pouvais leur coller quasiment une seconde dans la gueule.
Mais personnellement, je sais pas pourquoi il doit reconnaître qu'il est stupide. Le championnat est plié, casse moteur pour les prochains Grands Prix, ils s'en foutent. Voilà, c'est...
Oui, c'est pas dans la philosophie Red Bull, c'est-à-dire que... Red Bull ne veut pas baisser son niveau voilà, ils veulent garder la même exigence pour justement, je pense, rester sur la même dynamique l'année prochaine.
Ouais, mais justement, dans un meilleur tour.
Oui, mais la dynamique de sérieux, c'est-à-dire que c'est quelque chose, sincèrement, au début d'année, ils n'auraient pas fait. Il n'en a pas fait beaucoup cette saison, Vettel, de meilleur tour. Et là, il le claque pour se faire plaisir, voilà, il s'est fait plaisir. Mais c'est vrai que eux, dans leur logique, voilà, jusqu'au Brésil, ils vont essayer de jouer la victoire à chaque fois, ils vont rester sérieux, tout en préparant 2012, mais ils veulent garder cette dynamique de la victoire parce que ils savent très bien que le moindre petit grain de sable peut insinuer le doute et si cette équipe se met à douter, bah, ils ont peur que voilà, ça leur joue des tours. Donc voilà, ils veulent vraiment rester sur une ligne, une ligne rigoureuse et jusqu'à la fin de saison.
Et là, pour l'instant, il en est à 10 sur 16. Il
peut toujours égaler, je crois, le record de Schumacher de 13 sur...
Ouais, 13...
Mais Schumi, lui, il a fait 13 sur 18.
Ouais, oui.
Donc il restera devant.
Et de toute façon, le meilleur score, c'est 11 sur 17.
Ouais.
Schumi en 2002.
Voilà. Alors exactement, c'est Schumi, Vettel, Mansell, Schumi, Senna, Schumi.
Et je pense aussi il y a cette dimension là aussi qui est importante pour Red Bull, c'est que d'accord, ils sont champions. D'accord, ils ont été titrés là 3 courses constructeurs avant la fin et 4 courses pilotes avant la fin. Mais il va rester quoi après? Il va juste rester qu'ils sont champions. Alors que s'ils font une saison record, s'ils font pas de record de pôle, là aussi je pense que le niveau d'excellence là ils rentreront dans l'histoire, ils feront l'une des plus grosses dominations dans une saison. Là c'est notre affaire quoi, c'est pas seulement gagner un titre, c'est plus qu'un titre, c'est dominer la saison.
Allez, on va passer au classement, Ska.
Et avec cette question, j'ai dit, est-il champion?
Eh bien, écoutez, Vettel a 308 points et Button en a 225.
Il est champion.
Il est donc...
Yeah,
vous l'avez.
Le champion du monde, SAV.
Troisième fois de suite, quand même.
Pour la troisième année consécutive, Vettel finit champion du SAV.
Faut que j'arrive à le contacter, sérieux. Faut qu'on lui fasse un petit diplôme. Et faut qu'on arrive à l'envoyer à Red Bull.
Mais heureusement que c'est pas le vrai championnat, hein, le SAV, parce qu'on se fait vite chier, quand même.
Ah bah, mais en même temps, voilà, il a été titré qu'aujourd'hui au SAV.
Oui, c'est vrai.
On a un petit peu sauvé l'honneur.
Ouais, il avait retardé d'une course.
Et à noter, donc, Button 225, Alonso 209, Hamilton 203, puis Weber est déjà à 187, Massa à 102.
Sincèrement, c'est une surprise. Hein. En toute franchise, en début de saison, quand j'ai vu Vettel dominer comme ça, je me suis dit, les gens vont le casser. Il va faire beaucoup de d'accessit, mais rarement des victoires, même quand il aura gagné. Et je dois franchement faire mon mea culpa et vous rendre hommage à vous, auditeurs, qui avez joué le jeu. Qui, voilà. C'est vrai que sincèrement, en début de saison, quand on a décidé que voilà, on allait considérer notre voix comme une autre voix parmi d'autres, on s'est dit quand même, ah, y a quand même le risque de s'exposer à une vague de mecs qui vont descendre le pilote. Et en fait, non, vous avez vraiment joué le jeu et on tient à vous en remercier. C'est que vous respectez le SAV, vous respectez l'esprit.
Sinon, au classement des constructeurs, eh ben, forcément, il y a encore un petit suspense. Ah. Red Bull 485 et McLaren 428. Et Ferrari est à 321. Sinon, dans l'autre classement, bon, Vettel est à 349.
Est-ce qu'on a besoin de donner, je dis.
Non, mais c'est surtout pour le...
Ah oui, c'est vrai, place, oui. Hein.
Button 222, Alonso 212, Weber 209 et Hamilton 196. Il raccroche un petit peu.
Ça
se resserre un peu avec son bon résultat.
Il y a 26
chez, points, hein. Chez les constructeurs, donc Red Bull, Renault 558 points, champion du monde. McLaren 418, Ferrari 310, puis bon, Mercedes et Jarlaghi à 127.
Les trois premières places sont quasiment jouées.
Ouais, et à noter une belle remontée de Toro Rosso, hein, puisque si Sauber est à 40 points, Toro Rosso est à 37.
Mais fiance, Sauber.
On va passer au fait marquant.
Oui, je serai modeste. Oh. Attends, j'ai dit, j'ai pas beaucoup gagné cette saison. Laisse-moi celle-là, s'il te plaît.
Attention, on arnaque pas là. Qui c'est qui doit proposer en premier là?
Oh, mais fais-nous. Mais ça m'énerve, ça. Mais arrêtez de tout de suite vous jeter comme ça pour dire ah attention, pas d'arnaque.
Ah bah attends, je vais sur site là. Attends, je vais sur FNF1 pour pas me faire gauger. Alors, FNF1.
Vous avez dit 28.
Défends-toi.
Non, mais de toute façon, j'ai les chiffres pour moi, donc il va se faire foutre.
Ouais, moi aussi j'ai des chiffres.
Quel était selon vous le fait marquant du Grand Prix du Japon 2011? Vous avez été 28 à voter. On vous remercie, de même qu'on remercie tous ceux qui ont voté pour le top 10. Et t'es arrivé 3ème avec 3 votes. Je pensais que ça serait plus quand même, mais...
C'est ta proposition à lui, ça.
La safety car à l'américaine, 10,71. Non, mais je le dis, je suis honnête, c'est un beau plantage. Hein.
Oui, bah c'était une stratégie, Cindy.
Voilà. Non, non.
Ah, oh, ouais, tu dis...
Est arrivé deuxième avec 7 votes, le départ de Vettel, 25%. Et premier, avec un joli 64,29%.
Oh la branlée. Ah, je fais plus fort que Hollande.
Button qui prend l'ascendant sur Hamilton.
Pourquoi c'est pas, il n'y a pas les scores sur la page de Élysée, votre effet marquant? Ah non, c'est dans le podcast, d'accord.
Je suis fatigué. J'en peux plus.
J'ai confiance, moi.
Donc, Sylvie, c'est à toi que revient le choix.
Eh bien, je vais dire... Hamilton brise la série de pôles de Red Bull.
Donc du coup, c'est à toi, Bilo, maintenant.
Oui, tu avais dit quoi? C'était quoi les chiffres des sondages?
Non.
Moi, j'ai 14,29 hein, pour le safety car à l'américaine. T'avais dit 10 quelque chose? Bon.
10,71, 3 votes. 3 votes, 28 votes, c'est un peu normal que ça fasse 10 et quelques.
Alors, fait marquant. Ah oui, t'as pris Hamilton. Ouais, t'as choisi la voie de la facilité, c'est pas bien.
Non, non, je suis désolé. Hamilton, c'est pas la voie de la facilité. Mais un truc que, par exemple, Hamilton a été génial, je suis pas sûr que les gens y votent pour.
Ouais.
Hamilton ne sait pas faire marquer.
Voilà, prends un risque.
Le crash, l'accrochage Petrov-Schumacher. Le crash, je sais même pas ce que c'est. Le truc entre Petrov et Schumacher.
Ah, c'est vraiment sûr que je mette ça. C'est vraiment sûr que je mette ça.
Le crash, je sais pas, le truc avec Schumacher et Petrov.
Le crash. Ah ouais, le truc, ça le fait, n'empêche. Les gens, ils votent.
Le truc.
Ah ouais, vas-y, mets-le. Les gens, ils vont voter. Je suis sûr que ma stratégie va payer.
Je sais pas. La brillante course d'Algar Suari.
On voit que le mec, il a fait le choix en dernier, déjà.
Ça, c'est de la stratégie.
Oh non, pas du tout.
Donc, vous avez le choix entre Hamilton, qui brise la série de pôles de Red Bull, le truc, entre Schumacher et Petrov.
Non, t'as pas vu ça,
j'ai dit. Et je l'ai demandé deux fois, il m'a dit oui, mais le truc.
Je suis sûr que ça va marcher.
Et vous la brillante course d'Alguer Suari. Attention.
Vous allez voir. Rendez-vous dans deux semaines. Vous êtes...
Sur ce, on va passer au concours.
Le service après-vente de la F1 vous présente le concours Top Opposition. Un concours sans musique qui fait flipper ni question à la con. Quoique.
Oui, le concours Top Opposition avec cette question que vous posez la semaine dernière. Oh. Steve. Quelle est la longueur du circuit Séoul Central de la série de jeux vidéo Gran Turismo? Et la réponse, Shinji, la connais-tu?
Non, je la connais pas.
Non.
Je vais chercher.
Alors, quand même, Shinji, d'après toi, est-ce qu'il est possible, peut-être cette question, de faire des digressions?
Je me dis comme ça que le risque, c'est si jamais il y a plusieurs versions de circuit, vu qu'il y a plusieurs versions de Gran Turismo.
Non, mais en fait, je crois que c'est un circuit qui était que dans Gran Turismo 4, donc il n'y a qu'une version.
Ah oui. Ah bah, dans ce cas-là, je serais tenté de dire non, puisqu'il n'y a qu'une seule version, il y a une distance moins.
Voilà. Et pourtant, on a quand même qui tente. Alors, je vais pas vous lire tout le mail, sérieux, parce qu'il y a un plan en trois parties, compagnie, voilà, c'est très long. Je vais vous lire l'introduction et la conclusion. Alors que son auteur m'excuse, mais faut pas non plus exagérer. Quelle déception que cette question pour le concours Top Opposition. En effet, Gran Turismo 5 est un jeu de course automobile et non un jeu de tennis. Et alors, quel est l'intérêt de poser la question « C'est où le central ?» dans un jeu qui ne concerne pas du tout le tournoi de Roland-Garros.
Donc déjà, donc c'est Steve, Gus, Gus, Bloben, parce qu'il y a qu'eux qui prennent assez de drogue pour faire les sympas.
Voilà.
On s'en repéré, les gars. Hein.
Après, il y avait un truc avec le calcul de distance entre le cours Philippe Chatrier, puis le Japon, et puis Yangam. Ah, c'était très compliqué. Je vais vous passer, voilà, pour arriver tout de suite à la conclusion.
Mais pourquoi il parle de Roland-Garros?
Parce que c'est où le central? Faut qu'on explique toutes les blagues, je dis. Le circuit, c'est Séoul central. Et lui, il a compris, c'est où le central.
Putain, mais il est con, hein.
Ah, ça, je laisse au montage, tu t'arrangeras avec lui.
Non, mais sérieux, c'est le Grand Prix de Corée, le mec, c'est où le central?
Écoutez, moi, je n'évoque certaines picomanies, après, c'est un petit peu
de gens. Bien sûr, on pose des questions sur le tennis.
Et donc, il finit, hein. Et si jamais on faisait un mauvais jeu de mots en considérant que Séoul, le central, prononcé de manière hâtive devient Séoul central, le nom d'un circuit virtuel d'un jeu dont je ne me souviens plus du nom, la longueur de ce circuit serait alors de 2,72 km, mais c'est une réponse à laquelle je ne crois qu'à moitié, tellement elle est tordue. Non, c'est pas la réponse qui est tordue, c'est toi. Donc nous avons eu 4 bonnes réponses.
Oh. Au fait... pour la réponse là de j'ai divorcé en japonais, la réponse c'était une vraie réponse ou c'était une blague?
Je t'adore, Bilo.
Tu as ce, non, petit mais
côté,
sérieux.
Tu as ce petit côté rafraîchissant de la jeunesse, tu vois, ce petit côté de dire ah, nous aussi on était comme ça à une époque, enfin peut-être, enfin je sais pas, on est... Non, c'est une blague, Bilo.
D'accord. Et du coup, c'était un foutage de gueule et c'est pour ça que je n'ai pas participé à cette question, parce que j'ai estimé que ce n'était pas une vraie question. Donc,
je demanderai à Bilo de se taire, parce que nous avons eu 4 questions. J'ai dit, je te soumets ces questions, c'est à toi de choisir.
Attention oui. À ce que tu vas dire.
Ah. Je commencerai par la question numéro 1. Combien de propriétaires différents l'écurie Force India a-t-elle eu sous ses différentes formes de 91 à nos jours?
D'accord.
Question numéro 2. Quel événement culturel inaugurera le Grand Prix d'Inde? Question numéro 3. Quelle est la touche du clavier d'ordinateur qui va le plus vite? Celle-là, on l'expliquera à Bilo à Rambel. Et enfin, question numéro 4. Le circuit international de Bud a été dessiné par Hermann Tilke. Mais combien l'Allemand a-t-il dessiné de circuits ayant été inscrits au championnat du monde de Formule 1? La réponse, dans quelques instants.
Attention, Shinji, est-ce que tu veux dire?
J'ai envie qu'il y ait qui répond, hein. Donc, j'ai bien envie de prendre la première.
C'est-à-dire, combien de propriétaires différents l'écurie Force India a-t-elle eu sous ses différentes formes de 91 à nos jours?
Voilà.
Oui. Eh bien, Shinji, tu vas faire un heureux. Mais ce sera pas Bilo.
Mais c'est pas vrai.
Voilà. Qui a encore eu un orgasme avec son bureau, mais ça, on n'y peut rien. On peut pas l'arrêter, on est désolé.
Mais pourquoi il choisit ça comme question? C'est pas vrai.
Et donc, en plus, Bilo va être très content, parce que c'est une question de Gus-Gus. Hein.
Ah.
On peut quand même applaudir l'effort de Bilo, qui nous avait demandé quel événement culturel inaugurera le Grand Prix d'Inde. Il s'agit, Bilo...
Je sais plus, il fait copier-coller.
Oh là là.
Du concert de Metallica. En sachant qu'il y aura aussi Lady Gaga, je crois, en Inde.
S'en fout.
On peut admirer aussi la question de Globen que tu avais bien reconnu, Shinji. Enfin, tu avais cité son nom. Hein. Et donc, la question sur Hermann Tilke, hein, c'était donc la question de Globen. Et enfin, par élégance, parce que je suis un gentleman, je tairai l'identité de celle qui a posé la question et la touche du clavier de l'ordinateur qui va le plus vite. Voilà. Mais vraiment parce que je suis un gentleman et que je veux pas gêner les filles.
C'était quoi la réponse?
Oh non. Eh ben tiens, tu chercheras pour la prochaine fois.
Oh non, non, s'il vous plaît, j'ai pas envie de chercher. Là.
Alors, regarde ton clavier. Et cherche la touche la plus rapide.
C'est pas le
cas. Jusqu'à la fin de l'émission.
Mais
c'est ton gage, en prévision que t'aies pas fait tes 7
ouais.
Tes 7 bonnes ou mauvaises réponses. Pour participer, hein, vous connaissez la marche à suivre. savf1@yahoo.fr. Vous nous posez une question sur le Grand Prix. Après le Grand Prix d'Inde, qu'il s'agira donc du Grand Prix d'Abu Dhabi. N'oubliez pas donc de nous poser une question avec une réponse, hein, pour qu'on puisse quand même avoir la réponse à votre question. Donc, fort logiquement, de nous envoyer la réponse à cette question que je vous rappelle. Combien de propriétaires différents l'écurie Force India a-t-elle eu sous ses différentes formes le 91 à ce jour. N'hésitez pas à nous mettre les noms et compagnie si vous avez.
C'était pas la question sur l'événement inaugural, là ?
Non, je crois pas. C'est bien tenté, mais non.
Je répète aux gens qui voudront répondre, Sahara, le dromadaire extraterrestre, n'a pas possédé Force India.
Mais franchement, Shinji, j'essaie de relever le niveau de l'émission avec des questions culturelles et tu ne saisis pas l'occasion. Non,
c'est raté, c'est trop tard.
Oh. Bah oui, mais enfin...
On peut pas relever le niveau de cette émission. C'est fini.
Tu vas le regretter.
Oh, je regrette. Trop peur.
Faut qu'on le fasse venir plus souvent, Bilo, moi je dis.
Ah, ouais, vous m'avez refusé deux fois quand même.
Oui, c'est vrai. Non, c'est vrai qu'il faut saluer que, voilà, comme la règle, c'est priorité aux nouvelles têtes. C'est, à chaque fois, tu t'es posé candidat deux fois, puis il y en a une fois, je crois que c'était Ice Manner qui a participé, et une fois, je sais plus qui. Et voilà, c'était priorité à ceux qui étaient jamais venus. Merci de ta compréhension.
Oui, même si j'ai pas compris.
Oui, mais nous, on a fait plus j'ai important.
Je plaisante. J'ai compris.
Allez, on va passer au prochain Grand Prix, qui est la nouveauté de la saison.
Oui.
Le circuit canard. Le circuit de New Delhi.
Le circuit que adore Homer Simpson.
Quoi?
Ah bah oui.
Homer Simpson, il aime la Bud.
Mais non, il boit de la Duff.
Il aime.
Ah, c'est de la Duff. Ah, c'est... Bah non, c'est la Bud, c'est la vraie bière.
C'est la vraie. Oui. Et donc, bah, c'est... désormais place à Bilo.
Oui.
Bilo.
Alors, tu vois, ce qui m'inquiète, c'est que, comme lui, il n'arrive pas à comprendre nos blagues, est-ce qu'on va comprendre les siennes?
C'est des blagues du Nord, vos blagues, donc le dernier mot assez...
C'est bizarre, c'est du Nord de la France, mais tout le monde les comprend, sauf Bilo.
Alors, donc j'ai choisi cette bonne raison d'aller en Inde, mais selon le point de vue, en fait.
Ok, d'accord. C'est expérimental, non, c'est bien, c'est expérimental, moi j'apprécie l'effort.
Ouais.
Mais non, mais en fait, non, il n'y a rien d'exceptionnel, mais c'est juste pour arranger...
Il y en a trois qui seront plutôt pour et quatre qui seront plutôt pas pour. Mais globalement, c'est pour. C'est ça?
C'est sept bonnes raisons, mais chaque bonne raison, c'est pour quelqu'un en particulier.
Ah, d'accord.
Intéressant.
C'est intéressant.
Oui.
Vas-y, nous t'écoutons.
Alors, première raison, pour ceux donc qui ont parié avec Vijay Mallya concernant son objectif avoué lors du Grand Prix d'Inde, c'est-à-dire un podium pour son équipe, eh bien, se déplacer lors du Grand Prix d'Inde vous permettra de décrocher un beau pactole.
C'est vrai.
Deuxième raison, si vous étiez fan du film Slumdog Millionnaire, eh bien, en vous déplaçant lors du Grand Prix d'Inde, en Inde, vous pourrez rencontrer en chair et en os l'acteur principal du film. Aujourd'hui, il a un peu vieilli, il a beaucoup grossi, et on l'appelle Vijay Milliardaire.
Oh, dommage, ça finit mal.
Merde.
Je m'attendais à une critique sociale derrière et tout, et dommage.
Ah, mince, désolé.
Non, mais le début était bien.
Troisième raison, c'est l'occasion... de revoir si vous êtes nostalgique de ce beau pilote de couleur dans sa magnifique voiture blanche, eh bien vous pourrez assister au dernier Grand Prix de Naren Kartikeyan.
Attends, tu veux dire qu'il y a plusieurs pilotes de couleur en Formule 1?
Kartikeyan, il est rouge.
On a quand même appris que... Alors, attends, tu veux dire que Lewis Hamilton est noir et que Kartikeyan est rouge?
Eh oui.
Je suis sans voix.
Ouais.
Quatrième raison. Alors, c'est pour les Japonais qui ont des problèmes d'ouïe et qui comprennent mal les langues étrangères. Alors, peut-être un peu déçus par leur course nationale, eh bien, ils pourront toujours se retourner vers une course qui est presque leur course aussi, ce Grand Prix d'Inde, puisque c'est la propriété du JP Group Circuit, et qui pourrait confondre avec le Japon Group Circuit.
J'ai pas compris.
JP, Japon.
Ah oui, d'accord.
Sixième raison, c'est l'occasion aussi de... Bah, découvrir une nouvelle culture asiatique en Inde, avec une spécialité culinaire du pays, le poulet, mais aussi le cochon à base de curry, et dont la France s'est inspirée, mais pour faire un jeu qui s'appelle aujourd'hui le cochon qui rit.
Tout ça pour ça.
C'est bizarre, je connais pas ce jeu. Faut dire que Bilo, ayant peur de faire un bide, nous a demandé avant l'émission vous connaissez le cochon qui rit? Oui, oui. Bon, d'accord, c'est comme ça que je demandais.
J'en suis à combien là?
Je te dis.
Parce qu'il m'en reste deux en fait. J'en suis à la septième, il y a un problème.
Bah, fais les deux, c'est pas grave.
Alors ensuite, c'est aussi un excellent grand prix pour les poulets. Les coqs, les poulets, tout ça, tout ce petit monde de volatiles, puisque c'est un grand prix à domicile pour eux, puisque c'est le grand prix d'Inde.
J'ai pas compris.
Ah non, merde! Le Grand Prix d'Inde.
J'ai pas compris.
Le Grand Prix d'Inde.
Oui, mais pourquoi est-ce que des poulets et des coqs ils seraient contents d'aller en
La
Inde?
dinde! Mais non, dinde!
D'Inde.
Dinde, la dinde!
La
La
dinde.
volaille! La
Le
dinde, Grand Prix
volaille.
d'Inde.
Comme le cochon d'Inde. Mais il y a un poulet d'Inde.
Mais non,
Je comprends pas.
Grand
Sincèrement,
Prix,
celui-là m'échappe.
c'est un jeu de mots. Grand Prix d'Inde.
Oui.
Dinde. C'est le mot dinde.
Oui,
Une
comme le cochon
volaille.
d'Inde.
Mais non, pas le cochon, la volaille.
Oui, mais il y a un
C'est le
cochon qui s'appelle
tout.
le cochon d'Inde, donc il y a un poulet d'Inde aussi,
Mais
ça?
non, le cochon. Mais non, cochon d'Inde, c'est D apostrophe et Inde derrière. C'est pas le cochon d'Inde.
Bah, le
C'est
poulet
pas un
d'Inde aussi.
croisé entre. C'est pas un croisé entre le porc et la volaille, le cochon d'Inde. C'est un cochon
Oui,
qui vient d'Inde.
mais. Ouais, je comprends pas.
Non, mais il fait exprès. Shinji, explique-lui, là.
Non, mais Shinji, il sait que je le fais exprès.
Bah oui!
Et enfin, septième raison, c'est pour les gens qui font souvent la gueule. En effet, le Grand Prix d'Inde est fait pour eux. Vous... C'était pas là la blague.
Non, mais parce que je sais déjà ce que tu vas dire. Et c'est très drôle.
Les gens qui font la gueule, ils vont se rendre sur le magnifique circuit qui s'appelle le Good International Circuit.
Un circuit où devra donc s'imposer Lewis Hamilton.
Oui aussi.
Oui. Bah d'ailleurs, on va passer au prono dans ce cas-là.
Oui.
Alors ce nouveau circuit, est-ce que vous avez quand même des idées de prono?
RTK.
Moi, je dirais bien Hamilton.
Je sais pas, parce que c'est un circuit quand même qui risque d'être abrasif, hein, c'est assez neuf, voilà, donc je sais pas, avec les pneus, j'ai
Ouais, c'est vrai.
Moi je mettrais bien une petite pièce, c'est chaque fois que je le fais, une petite pièce sur un pied de Ferrari, elle est massa pour faire original.
Ah, oh, tu vas lui porter
Non.
la place, mais quelqu'un
C'est le
d'autre.
but?
Non, je vais répliquer, je vais mettre Alonso alors. Pourquoi personne n'a mis Vettel?
Parce qu'on sait que ça sera Vettel.
Voilà.
Mais non, moi j'y crois, Weber. Écoutez, c'est un nouveau circuit. Rappelez-vous 2004, la saison où Schumi domine et que dans le même temps son coéquipier Barrichello ne gagne pas de course. Et que c'est à la toute fin de saison où Rubens Barrichello, sur le nouveau circuit de Chine, remporte la victoire alors que Schumacher est paumé dans cette course. Eh bien, ça va se répéter cette année. Weber va remporter le Grand Prix d'Inde et Vettel ne va pas terminer sur le podium. Je suis prêt à prendre le pari.
Moi, je pense sincèrement, Shinji, face à une analyse aussi pertinente et bien argumentée, qu'on ne peut rien dire. Weber sera vainqueur.
Carrément, ouais.
Merci.
Et même champion du monde, même s'il ne le peut pas, mais il le sera quand même.
Il sera champion du monde des trois dernières courses.
Voilà.
Non, il sera champion du monde du Grand Prix d'Inde.
On vous remercie, on vous souhaite, comme d'habitude, une bonne journée, une bonne soirée, en fonction de l'heure où vous nous écoutez. Et comme d'habitude, je vous laisse avec lui. Ça me fait peur. Mais je trouve
Voldemort.
quand même que celui dont on ne doit pas prononcer le nom, mais on sait tous qu'il s'appelle Dino. Tu as préparé quelque chose?
Oui, mais
Oh mon Dieu!
profitons-en quand même pour remercier Bilo de sa participation, de son petit côté rafraîchissant.
Merci.
Merci pour
Alors,
cette excellente soirée.
ah,
Voilà.
de rien, ravi d'avoir pu vous rendre service. Bon, bah, la prochaine fois, si j'ai besoin de vous, je vous ferai appel, hein, vous me devez bien ça. Hein.
Bon.
Je plaisante, mais merci, ça faisait longtemps que j'attendais ça, donc je suis très content. J'ai passé une bonne soirée, je commence bien la semaine, je suis content.
Ah, rappelons d'ailleurs, hein, qu'il reste une place pour le Grand Prix d'Abu Dhabi.
Je peux réserver.
Oh non, attends. Et donc, nous allons finir sur ce petit proverbe, enfin sur cette petite citation du poète Claude Aveline. Une petite citation que vous comprendrez que je ne pouvais guère éviter dans ce contexte où malheureusement le sport automobile a été endeuillé par la disparition de Dan Weldon. Un homme blanc, un homme noir, un homme jaune, toutes les larmes sont salées.